Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h, nous sommes le mardi 5 mai. On va bien sûr revenir sur les prix des carburants et sur la guerre en Iran ce matin. L'État a donc récupéré plus de 190 millions d'euros supplémentaires, c'est ce qu'a confirmé Sébastien Lecornu hier soir. Une cagnotte fiscale qui servira intégralement à financer les aides aux carburants. Toutes les informations et vos réactions bien sûr, je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Faut-il craindre une reprise des combats au Moyen-Orient? C'est à nouveau l'escalade. L'Iran a frappé hier des infrastructures aux Émirats Arabes Unis. Mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis qui s'apprêtent à riposter? Les dernières informations et les réponses sur RMC donc ce matin. Et puis dans 10 minutes, l'ancien coureur cycliste Richard Virenque sera en direct avec nous pour commenter l'annonce qu'on espérait tous. La nouvelle pépite du cyclisme français, Paul Sexas, participera bien au Tour de France cet été. De quoi peut-on rêver pour le coureur qui n'a que 19 ans? Il peut viser le podium. Voilà ce que prédit Richard Virenque. C'est ton parti pris. Son parti pris, ce sera donc à 7h10 sur RMC. Et puis, vous aviez peut-être entendu en direct hier, Christophe, auditeur dans l'Aube. Eh bien, il était en direct avec nous à 8h20 et il a gagné ce séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, parce que toute la semaine, on vous offre vos vacances. On va continuer à jouer ensemble, donc restez bien à l'écoute. Il y aura un nouveau gagnant en direct d'ici 9h. Il est 7h et il pleut, Géraldine.
Oui, il pleut et il pleut beaucoup même, puisqu'on est carrément en vigilance orange sur la Mayenne et la Sarthe. Pour ces fortes pluies, on attend 3 à 4 semaines de pluie d'ici la fin de la journée. Donc des pluies conséquentes qui ne vont pas toucher d'ailleurs que les Pays de la Loire. Ça concerne aussi la Bretagne, le centre, l'Île-de-France, jusqu'au Massif central ce matin, plutôt jusqu'aux Ardennes pour cet après-midi. Donc des pluies qui vont être soutenues. Sur les autres régions, on va avoir des averses orageuses. Alors c'est retour au calme. En revanche, sur le Languedoc, ça va faire du bien. Retour des éclaircies, puisque là, il y a eu de fortes pluies hier. Température qui baisse encore, ça reste relativement doux ce matin, 10-15 degrés en général. Cet après-midi, on sera sous les normales de saison avec 15 degrés pour Paris, Lille, 17 à Bordeaux, 19 à Lyon, 20 à Marseille, jusqu'à 22 degrés en Corse.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Excellent réveil à tous, 7 heures passées de 1 minute. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Bataille navale dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont escorté les premiers cargos bloqués. L'Iran a ouvert le feu sur les navires américains, mais aussi sur certains sites pétroliers de ses voisins. On fait le point dans un instant. 190 millions d'euros, c'est donc le montant qu'a rapporté la flambée des carburants à l'État, qui jure par la voix de Sébastien Lecornu de tout redistribuer via des aides. Et puis le tube de l'été, enfin annoncé, le jeune Paul Sexas a officialisé sa présence sur le Tour de France.
Des dizaines de missiles au-dessus du détroit d'Ormuz ces dernières heures.
Dès le début de la mission d'escorte américaine de cargo bloqué hier, l'Iran a ciblé les navires de Washington qui ont, eux, détruit des embarcations iraniennes. Le regain de tension s'étend même aux Émirats Arabes Unis. Attaque dénoncée par Emmanuel Macron qui appelle au calme. Romain Houg, la bataille navale semble bel et bien lancée.
6 petits bateaux militaires iraniens et avoir permis la traversée de 2 cargos américains dans le détroit d'Ormuz, annonce démentie par Téhéran qui a de son côté lancé des attaques de drones contre les Émirats Arabes Unis, provoquant l'incendie d'un important port pétrolier. Reprise des hostilités donc dans le Golfe, même certains navires commerciaux en auraient fait les frais. Plusieurs ont signalé des incendies et explosions à bord. De Keir Starmer au Royaume-Uni à Emmanuel Macron, les dirigeants européens condamnent ce regain de tension, car tout cela vient franchement faire vaciller la trêve décrétée il y a près d'un mois entre l'Iran et les États-Unis, d'autant que les négociations patinent depuis plus de 3 semaines. Et puis, la conséquence directe, c'est le cours du baril qui s'envole à nouveau et s'établit ce matin autour des 113 dollars.
Et pas de quoi faire redescendre chez nous les prix des carburants qui remplissent les caisses de l'État. Aveu du Premier ministre hier, oui, il y a un surplus fiscal ces 2 derniers mois. Et Célestin Bougère, le chef de Matignon, promet d'une part de jouer la transparence en publiant les recettes tous les 10 jours, et d'autre part de redistribuer chaque euro gagné.
Sébastien Lecornu le concède, les recettes de l'État liées à la TVA augmentent largement grâce au prix élevé à la pompe et font plus que compenser une baisse de consommation globale des Français. 190 millions d'euros de recettes supplémentaires en mars et en avril par rapport à l'année dernière qui ne seront pas conservées par l'État, promet le Premier ministre. Ils financeront le chèque pour les grands rouleurs et les aides ciblées pour les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs. Au total, l'État doit sortir 380 millions d'euros de ses caisses, d'après Sébastien Lecornu, bien plus que ses recettes supplémentaires liées au carburant, un devoir de transparence dans un contexte social explosif, d'après le politologue Benjamin Morel.
C'est la communication politique, ça permet de désamorcer un certain nombre de critiques, mais ça ne règle pas les problèmes profonds. Ça ne retarde pas la cocotte minute sociale, simplement ça donne le sentiment d'avoir géré les choses au bon moment et à l'instant T. Ça calme pas la colère, mais ça évite de l'amplifier par votre propre comportement.
Le politologue y voit aussi un moyen pour le Premier ministre de déjà préparer l'opinion publique au débat sur le budget, qui risque d'être compliqué à l'automne prochain.
Et dans ce contexte, celle qui tire son épingle du jeu, c'est la SNCF, surtout avec les trains régionaux. C'est un chiffre que vous dévoile RMC ce matin. Les ventes de billets TER ont bondi de 12% le mois dernier par rapport à avril 2025. Confinés sur leur bateau et même dans leur cabine, les 149 passagers d'une croisière ont été interdits d'accoster au Cap-Vert. Hier, les autorités craignent cet antivirus qui a déjà tué 3 personnes à bord. Il est 7h04 sur RMC et ce jouet français emblématique était en fait fabriqué en Chine. Vous vous souvenez sûrement de Sophie, cette girafe en caoutchouc. Eh bien, l'entreprise Vully qui la fabrique a été contrainte de reconnaître la supercherie. Derrière le Made in France, fièrement affiché, se cachait en fait une production délocalisée en Chine. Ça dure depuis au moins 2013, selon une enquête de Mediapart. Et la répression des fraudes s'est saisie de l'enquête, Victor Joannin.
Oui, le fabricant pourrait être condamné à une amende salée jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires pour avoir fait croire aux consommateurs que la fabrication de Sophie la girafe était française. C'est ce qui était marqué jusqu'à récemment sur l'emballage et c'est d'ailleurs toujours indiqué sur le site de e-commerce Amazon, alors même que le jouet mythique en plastique est importé de Chine, puis peint et conditionné en France. Le fabricant, qui n'a pas répondu aux sollicitations d'RMC, reconnaît faire appel à des sous-traitants chinois, mais il assure qu'il n'a rien caché et qu'il rapatriera la production quand la nouvelle usine dans les Vosges sera opérationnelle. Une situation qui dure depuis au moins 12 ans, selon l'enquête de Mediapart. L'usine historique de Rumilly, en Haute-Savoie, servirait seulement de vitrine, avec un atelier réactivé uniquement en cas de visite extérieure ou lors des contrôles.
Victor Joannin pour RMC. Début du premier procès d'une affaire tentaculaire, les violences sexuelles dans le milieu périscolaire parisien. Un animateur face à la justice dès aujourd'hui. La mère d'une des 9 petites filles qui l'accuse témoigne sur RMC, vous l'entendrez dans le journal de 8h. S'agit-il d'une tentative d'intimidation à Besançon? Hier matin, les élèves d'un collège ont vu par la fenêtre la voiture d'une surveillante s'embraser. Acte volontaire, c'est la piste principale. Le personnel a exercé son droit de retrait. Hier, les cours doivent reprendre ce matin dans une ambiance pesante, Antonin Audion.
L'incendie a laissé des traces, comme l'explique Stéphane Fauconnier, professeur de SVT et collègue de la surveillante dont la voiture a été incendiée.
Elle a été choquée, évidemment. On a considéré que c'était un danger grave et imminent. En soutien avec la collègue surveillante.
L'enquête ouverte par le parquet de Besançon doit déterminer si cette surveillante de 25 ans a été visée dans le cadre de son travail.
C'est une surveillante qui est plus particulièrement chargée de prendre les élèves qui sont, par exemple, exclus de cours ou qui sont punis, sanctionnés, et c'est elle qui les gère. Cette année, on en doit être au 14e ou 15e conseil de discipline. Je crois que c'est la première année où on a quand même des conseils de discipline en 6e.
Ce matin, un temps d'échange est prévu avec les élèves du collège.
Le principal qui va recevoir chaque niveau de classe pour d'une part rassurer certains élèves et puis aussi redire un certain nombre de règles.
L'inspecteur d'académie ainsi que la directrice de cabinet du préfet du Doubs vont également rencontrer les représentants du personnel dans la matinée.
Antonin Audion pour RMC. Le foot et cette première demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. 21h, Arsenal reçoit l'Atlético Madrid après le match nul un partout au match aller. Ce sera à suivre sur RMC avant demain, vous le savez, la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et puis ça y est, c'est officiel depuis hier. Paul Sexas va s'attaquer cet été au Tour de France. La pépite française de 19 ans, celui que tous les fans de vélo rêvent, voire annonce en jaune un jour, Julien Richard.
Oui, quand il a appris la nouvelle.
Ah, il le fait.
Marc Pacheco, premier entraîneur de Paul Sexas au Lyon Sprint Club, n'a pas vraiment été surpris.
On est fiers. Et contrairement aux critiques, il est trop jeune, etc. Non, moi je dis, si jamais il gagne pas le tour, bien qu'il va y aller dans sa tête pour le gagner, connaissant le phénomène, il sera pardonné.
Sur le circuit cycliste parisien de Longchamp, les amateurs en salivent d'avance.
Ah bah c'est une très bonne nouvelle, ça va être un très beau spectacle.
Excitant forcément, c'est toujours excitant de voir un jeune de 19 ans comme ça, qui a la hargne, qui a envie d'aller chercher des résultats, qui a pas peur de se confronter aux meilleurs.
Tous n'attendent qu'une chose.
Bouger Pogacar.
Ah moi j'espère qu'il sera sur le podium.
Ah on peut pas se mentir, on attend une victoire. Hein. Si on peut aller voir un Paul Sexas en jaune à 19 ans, ça serait magique.
Dans son maillot orange, Régis est plus mitigé.
Trop jeune, ouais. Le Tour de France c'est une lessiveuse, c'est 3 semaines non-stop. Stop à fond tous les jours, il est trop jeune pour faire ça.
Charles, en tout cas, c'est sûr, sera au bord de la route cet été et il ne sera pas seul.
J'ai hâte de voir ce qu'il va donner et qu'il nous rende fiers. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et que ça va être l'occasion pour lui de voir qu'il y a toute une nation derrière lui.
Paul Sexas, très attendu sur la ligne de départ à Barcelone le 4 juillet prochain.
Et notez hein, ce rendez-vous, ce sera évidemment à suivre sur RMC.
C'était le journal de Victor Pourchet. Et justement, vous parliez de Paul Sexas, cette pépite française du cyclisme, donc à seulement 19 ans. On a appris hier donc que le coureur français serait bien au départ du Tour de France en juillet prochain. Richard Viran qui est en direct avec nous, bonjour. Faut-il encore vous bonjour. Présenter? Vous avez participé à 12 Tours de France, vous avez gagné 7 étapes. Et pour vous, Paul Sexas a bien le niveau pour faire un grand tour. Vous allez nous dire ce que vous en espérez et on va commencer à rêver avec vous. C'est votre parti pris, Richard Virenque, avec nous donc dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Et cette annonce dans une vidéo avec ses grands-parents, Paul Sexas, qui a donc confirmé qu'il serait bien au départ du Tour de France en juillet prochain avec son équipe, l'équipe Décathlon CMA-CGM, qui est d'ailleurs aussi propriétaire d'RMC. Bonjour Richard Virenque, merci d'être en direct avec nous, ancien grimpeur, 12 participations au Tour de France, 7 victoires d'étape, 7 maillots à pois remportés. Paul Sexas, est-ce qu'il a le niveau? Oui, c'est votre parti pris, même à 19 ans?
Oui, écoutez, ce qu'il nous a fait depuis le début de saison, oui, bien sûr, il a le niveau pour participer au Tour. Le week-end dernier, il était quand même à la Flèche Wallonne, à Liège-Bastogne-Liège plutôt, et il a fait deuxième derrière Pogacar. Ça a été le seul coureur qui a pu le suivre dans la redoute. Il a gagné la Flèche Wallonne. Il a gagné le Tour du Pays Basque, qui est une course à étapes d'une semaine difficile. Donc, pour vous dire que oui, il a la capacité d'être au Tour sans problème. Après, le Tour, il faut qu'il y aille pour se faire plaisir. C'est un tout jeune, donc il va apprendre. Le Tour, c'est une lessiveuse, c'est une course particulière. C'est la course la plus dure, la plus stressante, et où il y a le plus de public. Donc, il va y avoir une grosse pression. Donc, moi, je pense que sur le Tour, il faut qu'il y aille sport plaisir.
J'aime beaucoup cette idée, y aller pour le plaisir. Est-ce qu'on peut vraiment y aller uniquement pour le plaisir? Alors, après, il a cette fraîcheur. C'est extraordinaire. Même quand on entend son message hier, on sent effectivement une gourmandise. Il y a encore une gourmandise.
Oui, c'est sûr que quand on dit avec le plaisir, vu les dangers du Tour et le stress du Tour, c'est facile de dire avec le plaisir. Mais il faut pas qu'il se mette la pression, se dire bon, je viens sur le Tour pour faire un podium, je viens sur le Tour pour gagner le Tour. Là, ça serait à mon sens une erreur. Il vient sur le Tour pour apprendre et forcément avec la forme qu'il a, il va emporter une étape. Peut-être il va aller jouer le maillot à pois. Il va se jauger l'avantage. Il faut qu'il finisse le Tour. Pourquoi? Parce que quand on finit le Tour, on prend de la caisse. Donc on progresse encore. Donc l'objectif pour son équipe, pour lui, eh ben il faut qu'il aille au Tour. Il va ravir les Français parce que tout le monde attend un Français pouvoir éventuellement gagner le Tour. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais en tout cas, c'est une très bonne chose qu'il prenne le départ et va nous faire du bien sur le Tour. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est à l'offensive, qui attaque assez souvent. Il va devoir un peu plus calculer parce que le Tour est long, 3 semaines de course.
3 semaines, donc, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire cette endurance. En fait, on a presque l'impression quand on vous écoute, Richard Virenque, que vous vous dites, au fond, ça va aussi le faire mûrir. Il est prêt, de toute façon, et pourquoi pas, il y aura peut-être des étapes, il y aura peut-être des maillots. Mais quoi qu'il arrive, ça va en plus l'emmener plus loin.
Oui, exactement. Il fera des erreurs tactiques parce que il est jeune encore.
Et on lui pardonnera,
bien sûr. Moi, je revois très bien ma participation il y a 24 ans au Tour de France en 92. J'avais 21 ans. J'étais le plus jeune du Tour à l'époque. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compté mes efforts. La deuxième étape, je me suis échappé. J'ai fait 250 km d'échappée. J'ai pris le maillot jaune. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert le tour. Et après, j'ai jamais abandonné le tour. Au contraire, le tour m'a grandi et je me suis servi de ça dans ma carrière. Donc, pour Paul Sexa, je pense que le tour va lui faire un grand bien. Il va lui apprendre plein de choses parce que c'est la mecque du vélo. C'est la course la plus difficile et il va prendre de la caisse et on va voir qu'est-ce que vaut Paul Sexa.
Exactement, il va pouvoir se tester en quelque sorte. Richard, viens rester avec nous parce que je voudrais aussi que vous puissiez dialoguer avec Yannick et Sylvain qui nous ont appelé au 32-16. Alors Yannick, je crois que vous êtes grosso modo d'accord avec Richard, viens, que vous prenez ça aussi comme une magnifique nouvelle. Pour vous, Sylvain, il y a plus de crainte. J'ai l'impression, Sylvain, vous nous appelez de Gironde, moniteur de conduite. Vous redoutez qu'il se grille, que ce soit trop tôt?
Non, je ne redoute pas qu'il se grille. Je dis, à 19 ans, il a raison de participer au Tour de France. Et je rejoins totalement Richard et je suis extrêmement ravi de pouvoir lui parler parce que je suis un plus grand fan. Mais après, voilà, il a 19 ans, il a le temps de faire son parcours. Moi, je dis, sur le podium, il y sera, quoi qu'il en soit, il sera le meilleur jeune, ça c'est sûr. Mais maintenant, voilà, qu'il se grille pas parce que voilà, il a le temps, il a 19 ans, il a encore toute sa carrière devant lui. Qui prennent l'expérience avec des grands coureurs comme Pogacar, comme Vingegaard. Il a déjà eu Pogacar à la Flèche Wallonne. Liège-Bastogne, pardon. Et après, derrière, voilà. Mais qu'il fasse attention quand même. Il a le temps. Qu'il ne se grille pas.
Qu'il fasse attention. Vous entendez ça, Richard Virenque?
Oui, mais vous savez, le problème, ce n'est pas cette année. Hein. Cette année, ça va être facile pour lui. Le problème dans une carrière d'un coureur professionnel, c'est de rééditer les efforts et de refaire des sacrifices et d'être là présent chaque année. Vous savez, quand vous avez le frigo bien plein et que vous rentrez dans la notoriété, tout change. Et c'est là où l'entourage est très important et la force de caractère est très importante. Et c'est là qu'on forge un champion. Donc forcément, il va rentrer dans le grand bain cette année au Tour de France. Il va nous faire des exploits, ça c'est certain. Et pour pas qu'il se grille, c'est son entourage, c'est lui, c'est mentalement. Il va falloir qu'il se ressource, qu'il prenne du recul sur plein de choses. Parce que quand on a la célébrité, quand on est invité partout, quand on gagne beaucoup plus d'argent, du jour au lendemain, on a moins faim. Et c'est là, il va falloir, pour Paul Sexas, son entourage ou lui-même personnellement va se remettre à travailler et va remettre tout de côté pour pouvoir être encore le meilleur.
Pour continuer à avoir cette énergie, cette envie, Yannick, c'est vraiment une très très belle nouvelle à vos yeux. Vous nous appelez des Pyrénées-Orientales, je précise que vous êtes maçon à Perpignan.
Ah oui, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Par contre, j'ai quelques désaccords. Moi, je veux pas qu'il y aille juste pour se faire plaisir. Déjà mentalement, il ira pas de lui-même pour se faire plaisir. Déjà, un jeune ne va pas dans une grande compétition comme ça pour se faire plaisir.
Il veut pas être juste au bord de la photo, quoi. Il voudrait être.
Non. Et moi, par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle d'âge. Mais déjà, moi, quand je l'ai entendu à plusieurs interviews, il est déjà très mature. Et comme dit une très grande star, on ne parle pas d'âge. Donc, pour moi, l'âge n'a rien à voir.
L'âge, peut-être pas, mais le fait que ce soit sa première. D'ailleurs, Richard Virenque, je voudrais encore vous poser deux questions. L'une, quand même, sur, évidemment, le duel. Vous avez parlé de Pogacar. Ce duel au sommet, est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce que c'est ça aussi qu'on va attendre?
Il n'y a pas que Pogacar. Hein. Le tour, il va falloir être prudent avec les chutes, tout ce qu'il y a autour. Il y a Vingegaard qui est là. Il y a Rinko qui est là aussi. Non, il y a beaucoup d'autres coureurs. Je pense qu'il va devoir se jauger lui-même, faire... Il y a des pièges la première semaine, attention aux pièges. Donc de stress, tout le monde veut aller devant.
Est-ce que le stress, ça peut être aussi la pression quand même? La France va être derrière lui, évidemment, avec passion, avec enthousiasme, mais avec aussi l'idée que, en fait, depuis 85, depuis Bernard Hinault, il n'y a pas eu un Français qui a vraiment remporté le Tour de France. Est-ce que ça, c'est une pression très lourde sur les épaules?
Bon, je pense qu'il va pas trop y penser de ce stress-là. Il va faire la course pour essayer de gagner une étape. Il va faire la course pour essayer de bien s'en sortir. quand je voulais parler dans le plaisir, c'est pas d'arriver et de faire des photos à tout le monde et d'être dans le plaisir. Le plaisir, c'est faire sport plaisir, c'est-à-dire d'attaquer, de se faire plaisir et de faire des résultats, mais sans se mettre la grosse pression. Oui. Quand on vient sur un tour gagner le tour, c'est une grosse pression, c'est-à-dire on est au millimètre de partout.
Donc il peut y aller là, progressivement.
C'est ça, progressivement apprendre. Il a le temps d'apprendre et il a 19 ans et il en sortira grandi de ce Tour de France, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Richard Vianque d'avoir été en direct avec nous ce matin, évidemment ancien coureur cycliste. Merci aussi à Yannick et Sylvain pour leur témoignage, leur réaction. Le Tour de France, ce sera le coup d'envoi, départ depuis Barcelone le 4 juillet prochain, et c'est un événement évidemment à suivre en intégralité sur RMC. Il est 7h21, pendant ce temps-là l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, faut-il afficher le portrait du chef de l'État dans les mairies? Le débat est relancé. À quand remonte cette tradition?
Eh bien, c'est pas si vieux, ça date du 19e siècle et c'est un roi qui va avoir cette idée pour montrer que l'État règne partout.
Vous nous le dites dans un instant, notez qu'à 8h30, mon invité ce sera Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient, pour essayer de comprendre cette nouvelle escalade à nouveau autour du détroit d'Ormuz. Notez également que comme chaque matin à 8h50, Nicolas Canteloup sera en direct avec nous sur RMC. Ne bougez pas, on se retrouve dans moins d'une minute, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et comme chaque matin, c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, le nouveau maire LFI de Saint-Denis a décidé de décrocher le portrait du président de la République depuis son bureau à la mairie. Bali Bagayoko affirme qu'il a mis ce portrait dans un coin de son bureau.
Oui, et il se justifie en disant que ça n'est pas un manquement républicain puisque d'après lui, je cite, « le manquement républicain est du côté de l'État qui ne corrige pas les inégalités ».
Est-ce que c'est obligatoire d'afficher le portrait du président dans une mairie ?
La réponse est claire, Apolline, c'est non. Hein. Une loi de 2023 l'avait envisagée, mais elle n'est jamais entrée en vigueur puisqu'en fait, elle n'a jamais été examinée par les sénateurs. En soi, rien de répréhensible dans ce que fait le maire de Saint-Denis. Mettre le portrait du président en mairie, ça relève de la tradition plutôt que de l'obligation. Mais il faut bien admettre que ce que fait Bali Bagayoko est quand même très rare.
Cette tradition, elle vient d'où ?
Alors, ça commence au 19e siècle, donc après la Révolution française. Le premier chef d'État à mettre des bustes et des portraits de lui dans les mairies, dans les préfectures, c'est un roi qui s'appelait Louis-Philippe. Il a régné de 1830 à 1848. Mais alors attention, pour comprendre cette affaire, il y a une chose importante à retenir. Ces bustes, ces portraits, ça n'est pas un culte de la personnalité, du moins pas à cette époque. L'objectif, c'était de montrer que le roi contrôlait le fonctionnement des institutions. Quand son portrait était dans une mairie, ça voulait dire que symboliquement, le chef de l'État surveiller ce qu'il se passait en quelque sorte, donc c'était plutôt vertueux, et c'est exactement ce qu'on va reproduire en République.
Quand on commence à avoir des présidents de la République, qu'est-ce qui change ?
Alors, notre premier président de la République, élu au suffrage universel, s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, c'était en 1848. Alors là, on fait très attention à ne mettre son portrait nulle part, pour montrer qu'un président, c'est une personne comme tout le monde. Sauf que ce président va devenir empereur sous le titre de Napoléon III et lui va être le premier chef d'État à réaliser un portrait photographique officiel. L'usage, ça sera de mettre la photo dans les mairies et lieux publics, mais là encore, aucune obligation.
Et quand la République revient, on garde cette pratique ?
Exactement, on garde la pratique. Au début des années 1870, c'est les débuts de la Troisième République. Et le premier président de cette Troisième République, il s'appelait Adolphe Thiers. Une des premières choses qu'il va faire, eh ben c'est un portrait officiel, portrait où il est en costume avec la main posée sur un livre. D'ailleurs, le livre, ça va devenir un incontournable des portraits officiels. On met sa photo dans les mairies, les préfectures, les bâtiments publics, mais là encore, rien d'obligatoire, c'est un rituel républicain.
En fait, ça n'a jamais été obligatoire de mettre la photo du président dans les mairies.
Alors en fait, ça a été obligatoire une seule fois, et franchement, c'était pas l'époque la plus glorieuse de la France, puisque c'était pendant l'occupation, en 1940, le chef d'État français, c'est le maréchal Pétain, une loi va imposer, là c'est obligatoire, son portrait dans toutes les mairies et tous les bâtiments publics. C'était un véritable culte de la personnalité. Je précise que le régime de Vichy n'était pas une république, c'était un régime autoritaire. Bref, depuis, tout ça ne s'est jamais reproduit.
Merci beaucoup Arthur, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h26, Arnaud Demanche a pris quelques jours de vacances, mais vous le retrouverez lundi en pleine forme, et à 8h15, on en garde le meilleur. Vous l'entendrez évidemment, notre cher Arnaud Demanche, et on l'embrasse. Il est 7h26 et on vous offre vos vacances, vous le savez, toute la semaine et depuis hier, on vous offre vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous jouez pour remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bélan. Cambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. 45 destinations dans les plus beaux endroits de France. Et Bellambra s'occupe des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris
prévu. Et des enfants.
Et des enfants surtout. Ça, j'avoue que ça nous fait beaucoup rêver avec Mathieu. Allez, pour remporter vos vacances, Bellambra, c'est maintenant. Vous envoyez vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Et le gagnant sera en direct avec moi avant 9h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Juste après, on va revenir évidemment sur cette cagnotte avec la hausse des prix des carburants. L'État dit avoir récupéré plus de 190 millions d'euros supplémentaires. Une somme qui servira intégralement à financer les aides annoncées par le gouvernement. Ça vous fait réagir. On en parle non seulement avec vous, mais aussi avec une économiste et puis le représentant de l'association 40 millions d'automobilistes. Il sera avec nous à 7h40 dans ce studio. À 7h50, la voix de gauche, comme chaque mardi sur AMC, Cécile Duflo, elle reviendra sur l'incroyable succès de la fraise française, la première et la preuve que notre pays sait produire et lutter contre la concurrence étrangère. J'ai mangé mes premières fraises de la saison hier et effectivement elles sont délicieuses, les fraises françaises. Oui. 7h28. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. RMC vous le dévoile en exclusivité ce matin. Le Haut Commissariat au Plan veut inciter les pères à prendre leur congé naissance et il propose même une carotte. Les caisses de l'État qui se remplissent grâce à la hausse des prix des carburants, plus 190 millions de recettes. Sébastien Lecornu promet transparence et redistribution. À l'approche des examens de fin d'année, ils sont 38% à avouer se doper pour tenir le coup. RMC à rencontrer des étudiants.
RMC vous le révèle donc ce matin, le Haut Commissariat au Plan veut inciter les pères à prendre les congés naissance auxquels ils ont droit.
Aujourd'hui, ils sont 40% à ne pas prendre la totalité des jours dont ils disposent pour s'occuper de leur nouveau-né. Dans une note qu'RMC a donc pu consulter et vous dévoile en exclusivité ce matin, le Haut Commissariat propose d'aller encore plus loin que le congé naissance de 2 mois qui doit entrer en vigueur en juillet, avec un 3e mois à condition que le papa ait bien posé tous ses jours. Une rallonge sous condition qui divise les parents que vous avez rencontrés pour RMC, Pierre Bourgès.
Quand leur fille est née il y a un peu moins d'1 an, Axel n'a pas pu prendre son congé paternité immédiatement. La raison, l'expert comptable ne pouvait pas, selon lui, laisser ses collègues seuls.
Sans dire que ça s'est imposé à elle, je cru que c'était naturel.
Elle m'a dit, c'est le deuxième, tu sais faire. T'as pas besoin de moi, donc j'ai su faire.
Mais pour sa femme Amandine, il ne faut pas que cette incitation se transforme en pression sur les pères.
Sur le papier, c'est sympa. Après, je pense que ça peut créer des tensions dans le couple quand même.
Au 1er juillet, le congé supplémentaire de naissance de 2 mois entrera en vigueur. Alexandre et Clémence auraient aimé bénéficier d'un 3e mois, d'autant qu'inciter les pères à s'impliquer leur semble important.
Je pense que c'est indispensable que les papas prennent du temps.
Moi, j'irais même plus loin à mettre le mot obligatoire pour les pères. Il y avait un besoin, quoi.
Cette proposition partage les professionnels. Camille Kolebka est assistante périnatale.
Il y a un bon côté de se dire on œuvre aussi à faire un peu bouger les mentalités et en même temps, est-ce que c'est pas le risque d'infantiliser encore un peu plus ces jeunes parents?
Il ne faudrait pas que ces congés deviennent une solution face à la pénurie de places en crèche, prévient-elle dans la note que nous vous révélons. Ce matin, le Haut Commissariat au Plan préconise de garantir progressivement un accès à un mode de garde dès 1 an.
L'État profite-t-il de la crise énergétique pour remplir ses caisses depuis le début de la guerre au Moyen-Orient? En tout cas, la flambée des prix à la pompe a engendré 190 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires, annonce du Premier ministre hier soir. Mais Sébastien Lecornu l'assure, tout sera utilisé pour aider les Français. Une promesse jugée peu convaincante par le député insoumis et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel.
La transparence, c'est le moins que puisse faire le gouvernement, mais la question n'est pas tant la transparence, c'est surtout qu'est-ce qu'il compte faire pour enrayer cette crise, ou en tout cas en affaiblir les effets. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très très loin du compte. Il faudrait par exemple faire en sorte que le prix du pétrole baisse, et donc il faudrait un blocage des prix. Il faudrait accepter de s'attaquer aux bénéfices records qu'a encore fait Total sur ce trimestre. Tout ça, vous ne l'entendez pas le gouvernement en parler. Donc, c'est bien gentil d'être transparent, mais il vaudrait mieux pouvoir agir et agir de manière efficace.
Car le prix du baril de pétrole a de nouveau bondi hier soir après la rupture du cessez-le-feu par l'Iran. La République islamique a frappé les Émirats arabes unis pour la première fois depuis plus d'un mois.
Et la cagnotte, donc les 193 millions annoncés donc et précisés, je dirais, hier par le Premier ministre, ça vous fait réagir? Est-ce que vous saluez la transparence ou est-ce que vous voudriez que ça aille plus loin? Je vous attends au 32-16.
L'image de la soirée, elle nous vient d'Arménie, en visite officielle dans la capitale, Erevan. Emmanuel Macron, filmé, micro en main, mais ce n'était pas pour prononcer un discours, écoutez. Dans les cafés voisins, le chef de l'État qui interprète La Bohème, célèbre titre de Charles Aznavour, chanteur, et c'est à propos franco-arménien. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit aussi le Premier ministre arménien accompagner le morceau à la batterie. RMC, il est 7h34. Des habitants du Pas-de-Calais se mobilisent contre l'implantation d'un poulailler et ça fait réagir jusque dans les plus hautes sphères de l'État. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, tacle les riverains, dénonçant la caricature de l'individualisme, car Amélie Courté, à Saint-Aubin, personne ne veut voir 8800 poules s'installer.
D'un côté de la route, la maison de Philippe, de l'autre, plusieurs hectares de champs. Début avril, un panneau de permis de construire a fait son apparition.
Je suis tombé de haut parce que pour moi, c'était pas constructible en face. C'est une zone agricole.
Zone sur laquelle un agriculteur veut élever en plein air plus de 8000 volailles.
On n'est pas contre le poulailler, au contraire, c'est un poulailler de la Belle Rouge, donc des poulets de qualité. On a bien mangé des poulets, mais bon, et la zone n'est pas été bien choisie. Surtout qu'on n'a pas été prévenus.
Lui et plusieurs habitants ont distribué des tracts pour dire non au poulailler. Marie-Christine vit 5 maisons plus loin.
On se dit, mon Dieu, les odeurs, les nuisibles, les mouches, les rats, la pollution de l'air, les nuisances sonores, parce qu'il y a des camions qui viennent apporter à manger.
L'éleveur de 29 ans tente, lui, de les rassurer. Les camions, par exemple, ce ne sera que 2 à 3 passages par mois. Il est soutenu par le comité avicole des Hauts-de-France.
On a besoin de poulets. Un poulet sur deux est importé.
Philippe Desséry en est le président.
Là, on a un jeune éleveur. C'est une production locale. C'est un abattoir local. C'est un couvoir local. Tout est local.
Des poulets, notamment destinés à alimenter les cantines, les commerces des environs.
Et non, on n'en veut pas.
C'est désolant, conclut-il.
38% des étudiants admettent consommer des produits stimulants. RMC vous révèle en exclusivité ce matin un sondage mené par l'entreprise de soutien scolaire Les Sherpas. Et les étudiants, ils sont même de plus en plus nombreux à consommer carrément des médicaments. Louis Salé, il vous l'avoue, ils ont besoin de ces produits pour tenir en période d'examen.
Impossible pour Valentin d'imaginer affronter un examen sans café.
J'arrive souvent à la dernière minute, ça m'oblige donc à me coucher tard souvent. On est obligé de prendre du café le matin, ça nous maintient plus éveillés. Ça m'arrive aussi des fois de prendre des boissons énergisantes. On réfléchit plus vite, je trouve aussi, et la mémoire, elle est plus vive.
Des boissons énergisantes contre la fatigue le matin et de l'alcool, parfois le soir, pour faire retomber la pression.
Ça nous aide à réguler le stress. En tout cas, ça nous permet d'oublier nos problèmes durant quelques heures, et puis après, retour à la réalité le lendemain matin, et voilà.
Certains étudiants vont même jusqu'à se laisser séduire par des médicaments, des psychostimulants souvent prescrits aux personnes qui ont un déficit de l'attention.
Personnellement, j'en prends pas, mais je sais que ça circule, quoi. Il y en a sûrement même dans notre classe qui en prennent pour que ce soit plus facile simplement les révisions.
La concentration surtout s'améliore et la substance qui a la cote, c'est la Ritaline, non sans risque pour la santé, explique l'addictologue Nicolas Tiercelin.
Les effets secondaires, c'est des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, des crises d'angoisse, et puis une forme de descente, un crash émotionnel, souvent une humeur très dépressive à l'arrêt du traitement.
Ce qui peut entraîner une forme d'addiction pour ce médicament.
Arsenal reçoit l'Atlético Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. Anglais et Espagnols se sont neutralisés, un partout à l'aller. Coup d'envoi à 21h et demain à la même heure. Les footballeurs parisiens retrouveront l'Allianz Arena de Munich, là où ils ont soulevé leur première Ligue des Champions l'an dernier, pour donc la demi-finale retour face au Bayern.
Et puis le quintet, c'est à Saint-Cloud.
Voici le pronostic de Mathieu Zaccagni de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 14, Samor, et son outsider, le 16, Amusante.
C'était le journal de Rachel Sadodine. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il promet une transparence totale et de rendre public tous les 10 jours les recettes quasiment à l'euro près, les recettes fiscales du gouvernement liées à la hausse des prix du carburant. Sébastien Lecornu a donc publié hier soir un tableau avec les chiffres. L'État a récolté plus de 190 millions d'euros supplémentaires. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de l'association 40 millions d'automobilistes. Le Premier ministre qui annonce donc que ce surplus financera les aides mises en place. Est-ce que ça vous satisfait? Je vous pose la question évidemment dans un instant. Nous serons également en direct avec une économiste pour nous expliquer le mécanisme de ces surplus et vos réactions, bien sûr. N'hésitez pas au 32-16. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, très belle journée sur RMC. La hausse des carburants a rapporté 193 millions d'euros supplémentaires à l'État en mars et en avril. Voilà ce qu'a expliqué hier soir le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a publié un tableau avec l'évolution précise des recettes fiscales liées au carburant. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Le Premier ministre assure que l'intégralité de ces surplus seront utilisés pour financer les aides, précisément les aides gros rouleurs, les aides qu'ils ont déjà annoncées. Vous nous dites dans un instant si c'est une bonne chose, mais je voudrais essayer de comprendre aussi le mécanisme avec vous, Anna Créti. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Si on prend tout, c'est-à-dire les pertes et les gains, est-ce que vraiment c'est un gain net de 193 millions pour l'euro, pour l'État ?
C'est une entrée fiscale parce que sur les prix à la pompe, effectivement, il y a la partie qui varie en fonction du prix du brut, mais la très grande partie de ce qu'on paye, c'est aussi un ensemble de taxes. Donc, ce qui est là en jeu, c'est une taxe particulière, c'est une accise, donc c'est une taxe fixe par litre qui change selon la variété de carburant. Et un autre mécanisme qu'on paye sur tous les biens qu'on achète, c'est-à-dire la TVA. Et la TVA est à la fois sur cette accise et sur la valeur, donc c'est 20%, hein, sur la valeur des carburants.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'à la fin, les 193 millions dont parle le Premier ministre, ce n'est pas en réalité vraiment la totalité du surplus ?
Alors, c'est d'ailleurs, il a même modifié. Hein, ben, au début avril, on pensait que cette fameuse cagnotte serait plus élevée parce que la demande a baissé. Donc tout est
le
en
volume
proportion.
D'achat.
Absolument. Donc tout est en proportion dans ces calculs. Après, tel que cette taxe est conçue, il y a une partie qui va dans les caisses de l'État et une partie qui est reversée aux collectivités territoriales. Pour avoir une idée, en 2024, cette taxe avait rapporté à l'État, à peu près directement à l'État, 16 milliards d'euros. Mais c'est de la fiscalité générale. Donc, le fait qu'elle soit dédiée à la transition écologique, c'est pas du tout automatique.
C'est pas automatique. Or là, effectivement, c'est ce qu'a promis Sébastien Lecornu, l'idée que ce surplus soit intégralement utilisé pour financer les fameuses aides. Alors attention, encore une question d'ailleurs avec vous là-dessus. Il manque quand même des sous parce que les aides du gouvernement pour les gros rouleurs et les professions impactées, elles ont été chiffrées à 380 millions d'euros. Il manque donc encore 200 millions. Donc à la fin, c'est quand même plutôt un manque à gagner.
Il faut voir. Parce que pour l'instant, c'est un peu un jeu contre la montre. D'ailleurs, par exemple, les aides aux gros rouleurs, elles ne sont pas immédiates. Il faudra, donc c'est à partir de la fin du mois, il faut faire une démarche sur directement sur Internet. Donc rien n'est automatique non plus. Donc, à fur et à mesure qu'on avance aussi, cette cagnotte fiscale augmente. Donc,
elle
il faudra
va augmenter,
voir
donc à la fin, il y aura peut-être effectivement les 380 millions. Merci d'avoir précisé tout ça avec nous, Anna Créti. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Pierre Chasseret, au fond, c'est peut-être pas mal que ce soit une sorte de jeu à somme nulle.
Non, c'est n'importe quoi. En fait, on pose la mauvaise question, donc on n'a jamais la bonne réponse. On parle du surplus de cagnotte, qui, objectivement, il faut décomposer le mois de mars et le mois d'avril. L'État a perdu de l'argent sur le mois d'avril, hein, sur la fiscalité par rapport à ce qu'il imaginait.
Parce que le volume, effectivement, est moindre.
Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, Apolline, ce que je disais ici, même heure, pareil. J'ai dit quoi ? J'ai dit en avril, on va perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une baisse de la consommation. Baisse de la consommation de carburant égale moins de mobilité. Moins de mobilité égale moins de croissance. Tiens, c'est bizarre. Vous étiez hier avec le gouverneur de la Banque de France qui vous a dit il y a plus de croissance.
Effectivement que la croissance a été totalement flat, c'est-à-dire vraiment à l'arrêt aux trois premiers mois.
Et ça, Apolline, ça coûte de l'argent à l'État. Ce qui coûte de l'argent, c'est pas la baisse potentielle des taxes. Ça, ce serait réinjecté dans une économie de la croissance. Aujourd'hui, et j'écoute RMC, on a des témoignages qui s'accumulent avec des auditeurs qui nous disent « Je ne peux plus consommer ». Donc quand on ne peut plus consommer, on met la France à sac. Le calcul gouvernemental qui est fait...
On a même eu des témoignages de gens qui ne vont pas travailler ou moins travailler quand ils pouvaient se mettre en arrêt. On pense notamment à Sophie, aide-soignante. On pense à certains qui, effectivement, prennent moins de nouveaux patients ou moins de nouveaux chantiers dans le BTP.
Et je vous ai dit que c'était la mauvaise question. Je vais vous répondre maintenant pourquoi. On est braqué sur ce surplus. Mmh. Est-ce qu'il y a 190 millions, 100 millions ou 200 millions ? C'est pas la question. La question, c'est que les Français, en moyenne, mettent 2000 euros de carburant. Et que la hausse, là, de la fiscalité va faire en sorte que, finalement, ça va leur coûter peut-être 2002 ou 2003 à l'année. Mais la question ne repose pas sur le surplus. La question se pose sur le système fiscal français qui vient pomper 2000 euros de carburant par an. Il faut au plus vite abaisser la fiscalité sur la mobilité. Je vais vous poser une question toute bête. Hein. Pour le gouvernement, ça vaut combien la vie d'un Français ?
Alors, non.
Combien ça vaut?
Quand alors, vous ça, avez. Non, mais ça, alors, Pierre Chasseret, je vous arrête tout de suite, parce que cette question-là, elle pourrait être posée par les médecins quand je les reçois, par les patrons d'hôpitaux. Je veux dire, c'est une question fondamentale, mais qui se pose à tous les échelons d'État. On va pas se la poser uniquement pour le carburant.
Mais si, je vais me la poser parce que taxer la mobilité.
Là où j'accepte pas cette logique-là, Pierre Chasseret, c'est que, effectivement, dans ce cas-là, pour tout, on met une sorte de couteau sous la gorge des Français en disant ah bah, regardez, on a été obligé de faire des économies sur un nombre de lits ou quoi, et à chaque fois, on peut se poser cette question du coût de la vie des Français.
Eh bien, je
ne crois pas que ce soit parce qu'ils méprisent la vie des Français.
Mais si, c'est du mépris. Bien sûr que si. Et Apolline, je vais vous prouver que c'est du mépris. Quel produit mérite d'être taxé à 60%? Quel produit est taxé à 60%? La mobilité. Ça n'a pas de sens de fiscaliser une mobilité à hauteur de 60%. Quand vous empêchez les déplacements, après, on a les mêmes ministres qui viennent chez vous pleurer parce qu'ils sont obligés de mettre une taxe sur les petits colis. Mais pourquoi? Mais parce que ça coûte moins cher de se faire livrer un déodorant et quatre piles dans sa boîte aux lettres que de prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Il faut quand même se poser la question dans un pays qui tourne pas très rond.
Et
quand
effectivement,
même.
Ce transport, il est plutôt assuré. Effectivement, vous avez raison par ce genre de petits colis. Et on a reçu ici même à la fois, j'ai reçu le patron de Super U et le patron de Leclerc, qui tous disaient qu'effectivement, il y avait un peu moins de trajets pour pouvoir faire ses courses en une fois et pas avoir à retourner plusieurs fois au supermarché. Pour vous, c'est donc une sorte d'écran de fumée, cette annonce hier de Sébastien Lecornu?
Mais je vais même vous le prouver. Quand on annonce une aide aux soi-disant gros rouleurs, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un gros rouleur. Tout dépend de combien vous gagnez quand vous avez une mère de famille.
Ce sera un chèque à environ 50 euros pour les plus modestes et qui effectivement roulent beaucoup.
Donc vous savez comme moi que ce n'est pas 50 euros. Quand on dit 50 euros pour le carburant, ça ne fait pas 50. Puisque vous prenez 50 euros, vous allez faire le plein, vous en rendez 30 en taxes. Donc on vous a donné 20 balles. On est bien d'accord. Il faut, et comment va calculer le gouvernement? Il va calculer, tous les journalistes vont reprendre en boucle. On va multiplier 50 euros par le nombre de chèques. C'est faux.
Non, ça c'est parfaitement juste. Effectivement, puisqu'il y a, comme vous le dites, non, mais ce que je veux dire, c'est que votre calcul est parfaitement juste. Si les 50 euros servent vraiment à aller refaire un plein, c'est une manière de redonner de l'argent à l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus alors? Baisser les taxes surtout?
Il faut.
Vous n'êtes pas pour bloquer les prix, hein.
Mais on peut pas bloquer un prix. C'est pas possible. Bloquer un prix, c'est démago. Tous ceux qui promettent ça aux Français savent très bien que c'est pas tenable. En revanche, ce qu'on peut faire, on peut faire mieux. On peut juste rester, non pas un anarchiste, mais profondément européen, ce que je suis dans l'âme. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler nos taxes en France sur les préconisations de l'Union européenne. Ça veut dire, baisse de la TVA à 15, c'est ce que propose l'Europe. Pas en dessous. On n'a pas le droit. Donc, c'est pas possible de dire 5, on peut pas. Donc, c'est baisse à 15. Par contre, baisse des accises de 40 centimes. Bref, je peux pas vous faire le détail. J'ai fait l'addition.
Arriver au niveau européen, quoi.
Niveau qu'imposent les directives européennes, ça ferait 70 centimes aujourd'hui en moins sur un litre de carburant pour les Français. Et de toute façon, j'entends ceux qui me disent « mais ça va coûter ». Non, ça va pas coûter. D'ailleurs, regardez un peu le modèle gouvernemental qui mise tout sur l'électrique. L'électrique, c'est la France open bar qui paye pas de taxes de carburant. Donc si l'État veut vraiment aller vers un modèle 100% électrique, va quand même falloir qu'il apprenne à se passer des taxes. Sinon, ça veut dire que la petite idée qui tourne dans les têtes politiques, c'est un jour de taxer le watt au même niveau que les carburants, et ce jour-là, tout le monde sera électrocuté.
Je vous laisse votre métaphore. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, merci à vous et merci aux précisions d'Anna Créti, donc professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Il est 7h51. Cécile Duflot est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous voulez déclarer votre flamme à un produit français qui cartonne.
Oui, je veux dire vive la fraise et surtout vive la fraise française, bon pour la santé et pour tout le monde.
Vous nous le dites. Et j'ai déjà faim. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus. Mathieu Lanvert du décor d'une série culture. Et culture.
Pardon, culte, faute de frappe de ma part. Il y a des séries qu'on reconnaît à la première mesure du générique. Friends, mais c'est assez rare d'en parler en des termes aussi peu élogieux.
C'est culture aussi. Hein.
Ah ouais, c'est culture
enfin,
aussi.
C'est passé, disons, je dirais, dans les archives de la culture nationale et internationale.
Écoutez ce qu'en dit Lisa Kudrow, celle qui incarnait le personnage fantasque de Phoebe, qui chantait « Tu pues le chat », vous vous en souvenez. Friends n'était peut-être pas si chaleureux que ça. Plus de 20 ans après, elle décrit un climat de travail brutal, bien loin de l'ambiance légère à l'écran. Le tournage enregistré devant près de 400 personnes se faisait sous pression au moindre raté. Les scénaristes pouvaient lâcher des remarques humiliantes, parfois violentes, devant le public. L'actrice qui raconte aussi que les scénaristes avaient des discussions déplacées et s'amusaient en évoquant leur fantasme sexuel sur les actrices de la série. Bref, ambiance parfois toxique que Lisa Kudrow dit avoir appris à ignorer pour tenir les 10 ans, les 10 saisons de la série Friends.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h54 sur RMC et comme tous les mardis, c'est la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, la saison des fraises est ouverte officiellement. Gariguette, Plougastel, c'est la revanche de la fraise française et ça vous réjouit?
Oui, c'est la revanche de la fraise française, c'est un titre des Échos ce matin et c'est très sérieux parce qu'on parle du fruit préféré des Français. Les Français disent que leur fruit préféré, c'est la fraise et la fraise a fait l'objet d'une guerre terrible entre la France et l'Espagne. On se souvient pendant de nombreuses années des agriculteurs français qui ouvraient des camions et qui jetaient la fraise. Et puis, bah, avec le temps, maintenant, la France a en gros terrassé l'Espagne et a gagné la guerre de la fraise.
Comment ça s'est passé? Comment on a fait pour terrasser l'Espagne?
Eh bien, jusque dans les années, enfin à partir des années 80, la production française recule d'année en année, des surfaces en baisse et l'Espagne, elle, qui produit des centaines de milliers de tonnes et qui exporte massivement, 80% des fraises produites en Espagne sont exportées et beaucoup en France. Au début des années 2010, en France, plus de 2 fraises qu'on mange sont des fraises importées et majoritairement espagnoles.
Et c'est plus le cas aujourd'hui?
Non, pas du tout. Il y a eu un basculement. D'abord, les consommateurs ont évolué. 70% d'entre eux disent qu'ils préfèrent, s'ils en ont la possibilité, acheter des fraises françaises. Et ensuite, la filière a fait un choix qui est de mettre en valeur des variétés beaucoup plus qualitatives, notamment la sifflorette, mais surtout la fameuse gariguette. Et la gariguette, elle a une très belle histoire. Elle a été créée par une ingénieure agronome née en 1933, une femme française, Georgette Risser. C'est la recherche publique française. Elle crée cette fraise qui se développe et puis, en fait, il y a aussi toute une opération d'image avec des chefs. On montre que c'est meilleur de manger ces fraises-là que des grosses fraises gonflées à l'engrais et sans goût qui viennent d'Espagne. Et du coup, la gariguette explose et la fraise française explose. Et maintenant, plus de 50% des fraises vendues en pleine saison sont françaises.
Elles sont françaises, mais elles sont plus chères.
Elles sont plus chères, vous avez raison. Et pas tant que ça, finalement, parce qu'en fait, si on regarde... Si en moyenne, une famille française, ça mange 3 kilos de fraises par an. Donc sur 4 mois, c'est 3 euros de plus par mois pour de la qualité et pour soutenir l'agriculture française. Donc ça le fait.
C'est politique finalement la fraise.
Exactement, c'est très politique. On peut voter avec un bulletin de vote, mais on peut aussi voter avec une barquette en choisissant des fraises de meilleure qualité, produites en France, qui sont aussi bonnes pour la santé. Et puis, si on veut les acheter moins cher, on peut les acheter aux producteurs. Il faut savoir que les fraises ou les fruits achetés aux producteurs, ça coûte, c'est de meilleure qualité et ça coûte beaucoup moins cher. Si vous me permettez, je fais une spéciale dédicace à Marilyn qui vend des fraises à Pissos dans un chalet délicieuse qui sortent à peine du champ. Voilà. Elle m'a fait découvrir plein de fraises et plein d'autres variétés, parce qu'il y en a plein d'autres, des très bonnes. Et il n'y a rien de meilleur que les fraises. Par ailleurs, je termine, pour ceux qui hésitent encore, il y a plus de vitamine C dans les fraises que dans les oranges. Et c'est bon pour le transit, c'est bon pour le cœur. Bref, c'est même plus un bulletin de vote, c'est un slogan, manger des fraises.
Il y avait manger des pommes, et désormais avec Cécile Duflo, il y a...
Moi, c'est manger des fraises.
Manger des fraises, la voix de gauche sur RMC. Merci Cécile. Demain, ce sera la voix de droite. Louis Sarkozy, il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h à la une, premier procès pour des violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Témoignage RMC, vous l'entendrez ce matin d'une maman dont la petite fille a été victime d'un animateur. Juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, depuis ce matin, les actifs travaillent pour eux.
Et oui, on a fini de payer pour les retraités.
Les retraités?
Oui.
Vous nous le dites dans un instant. Il y aura aussi la météo, pas beaucoup de suspense, il pleut.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC.
Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le témoignage RMC d'une mère en colère. Sa fille est l'une des 9 victimes d'un animateur du périscolaire parisien, accusé de harcèlement et agression sexuelle. Il est jugé aujourd'hui, premier procès dans ce dossier depuis le début du scandale. Parti d'Ushuaïa en Argentine, bloqué au large du Cap Vert. L'incertitude pour les 149 passagers d'un bateau de croisière interdit de débarquer ce matin en raison d'un possible foyer d'antivirus. Et c'est l'un des gagnants de la hausse des coûts du carburant. Le train a plus 12% des ventes en avril sur les TER. C'est une information RMC.
Un ancien animateur du périscolaire parisien jugé à Paris.
Premier procès d'une longue série dans ce dossier qui a mis à jour un problème d'ampleur nationale et conduit à la suspension de 78 personnes depuis le début de l'année dans la capitale. L'affaire remonte à 2024 quand cet homme de 47 ans est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par 9 jeunes filles scolarisées dans une école du 11e arrondissement de Paris. Parmi les jeunes victimes présumées, Pénélope, sa mère, attend des réponses et une sanction à la hauteur des actes commis. Julie Brault l'a rencontré, c'est un témoignage RMC.
La colère, l'effroi sont toujours là 2 ans plus tard.
Contre l'animateur, bien sûr, contre les adultes qui n'ont pas su voir ce qui se passait sous leurs yeux.
Pénélope se souvient encore de ce mois d'octobre 2024 quand sa fille et 8 de ses camarades de CM2 ont dénoncé les câlins, caresses et propos sexuels répétés de leur animateur.
Il racontait des récits de viols extrêmement violents, il faisait des câlins serrés avec insistance sur la poitrine. Il avait des propos du genre « je voudrais faire des bisous partout mais je ne peux pas ». Il faut saluer l'immense courage de ces petites filles qui ont trouvé la force de dénoncer cet homme.
Le comportement de l'homme de 47 ans en poste dans l'école depuis une dizaine d'années avait pourtant déjà été signalé, assure la mère de famille.
Mais l'animateur n'a pas été inquiété plus que ça.
Aujourd'hui, Pénélope attend une justice ferme et sans équivoque.
J'espère aussi que notre fille comprendra qu'avoir parlé était indispensable et utile et qu'il y a quelque part des adultes et une justice pour les croire et les protéger.
Mais surtout, elle espère que ce procès initiera un sursaut collectif.
Parents, professeurs, animateurs, protéger les enfants, garantir leurs droits. C'est un travail qu'on doit tous mener.
Contacté, l'avocat de l'animateur mis en cause n'a pas répondu à nos sollicitations.
149 passagers toujours bloqués ce matin à bord du MV Ondus, ce bateau de croisière à bord duquel 3 personnes sont mortes, suspectées d'avoir contracté une maladie respiratoire, l'antivirus, un potentiel foyer qui inquiète les autorités du Cap-Vert. C'est là, Romain Houg, que les passagers du navire, dont 5 Français, devaient débarquer.
Oui, mais le navire n'a pas été autorisé à accoster dans le port de la capitale capverdienne. Il a jeté l'ancre pour l'heure au large de l'archipel. À son bord, les 149 passagers et membres d'équipage sont confinés dans leurs chambres. Pour s'imaginer, ce sont des chambres pour la plupart d'une quinzaine de mètres carrés dans lesquelles vous êtes en couple ou en famille. Et à bord, c'est l'angoisse qui prédomine.
And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
Vous l'entendez dans la voix de ce passager qui a témoigné hier sur Instagram. Tout ce que nous voulons, c'est nous sentir en sécurité, dit-il, avoir des réponses claires et rentrer chez nous. À ce stade, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui assure suivre la situation de près, seuls 2 membres d'équipage présentent des symptômes. Des pistes sont envisagées pour les évacuer, notamment via des ambulances aériennes. Quant aux autres passagers, ils pourraient débarquer prochainement au Canada. Sur les îles de Las Palmas et de Tenerife.
On reste en mer avec un premier navire de l'armateur danois Maersk qui, après 2 mois de blocage, a pu franchir et quitter le détroit d'Ormuz, escorté par l'armée américaine. Dans le cadre de l'opération Liberté, le transit s'est déroulé sans incident, dit la compagnie au lendemain du passage de premier bateau marchand. C'est ce que disent les États-Unis à la plus grande satisfaction de Donald Trump.
It's going very well.
Cela se passe très bien. Les Iraniens n'ont plus de marine, plus d'armée de l'air, plus d'équipement anti-aérien, plus de radar, plus rien. Ils n'ont même pas de dirigeants en fait. Eux aussi, ils ont disparu.
Les États-Unis qui disent avoir détruit au moins 6 embarcations iraniennes démenties de Téhéran. La tension s'accentue ce matin au Moyen-Orient, au risque de fragiliser la trêve à l'heure où des tirs iraniens ont visé les Émirats arabes unis hier, acte condamné par Emmanuel Macron. La guerre au Moyen-Orient, la hausse des coûts de l'énergie, la flambée des prix des carburants qui profite aux trains. La SNCF enregistre une augmentation de ses ventes sur les trains régionaux par rapport à l'an dernier, 12% de plus. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Une alternative plébiscitée par ces Français de Toulouse à Paris. Reportage Lucas Laubert.
Depuis toujours, départ en week-end rime avec coffre de voiture plein pour Pascal, mais cette fois...
Vous voyez, je suis devant vous avec les valises, gare Montparnasse.
Si pour ce séjour, il a choisi le train, c'est à cause de la flambée des prix à la pompe.
On remplit le réservoir du véhicule, on voit quand même la différence. Oui, je pense qu'il faut mieux prendre le train.
C'est ce que vous allez vous efforcer de faire maintenant.
Voilà.
Le train, plus avantageux que la voiture, aucun doute pour Thierry.
Il n'y a pas comme une mesure, quoi.
Tous les jours, il prend le TER entre son domicile à Carcassonne et son travail à Colomiers, distant de plus de 100 km. Un choix fait avant le début du conflit et la hausse des carburants. Et qu'il ne regrette pas.
Je crois que c'est de l'ordre de 90 euros par mois un abonnement de train. Quand on compte aujourd'hui un plein sur une station-service, c'est 135 euros les 50 ou 60 litres, un truc comme ça. On ne peut pas comparer, quoi, c'est improbable.
Une solution aussi pour les trajets plus longs. Claude prévoit de partir en vacances à Perpignan. Près de 300 euros l'aller-retour en voiture depuis Saint-Nazaire, où il vit.
Alors que jusqu'à présent, je venais toujours en voiture. On s'est dit, ce serait peut-être le moment de voir un peu ce que ça nous coûterait en train. Donc on a comparé les deux. Un aller-retour, c'était 200 euros. Moi, je n'ai pas la qualité de train, mais je ne sais pas, on va réfléchir. Hein.
Mais à prix équivalent, il l'assure, il continuera de prendre la voiture.
Le rail qui pourrait avoir encore de beaux jours devant lui, le cours du pétrole continue de grimper ce matin autour des 115 dollars. Conséquence de cette guerre au Moyen-Orient qui ne doit enrichir personne, pas même l'État. C'est le message de Sébastien Lecornu qui a dévoilé le montant du surplus fiscal de la flambée des coûts du carburant, 190 millions d'euros qui serviront à financer les aides du gouvernement à destination des grands rouleurs et des secteurs impactés. L'entrisme au cœur d'une bataille politique entre le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez qui prépare un projet de loi. Et Bruno Retailleau, ancien locataire de Beauvau, patron de LR, qui le devance avec une proposition de loi. Elle est étudiée aujourd'hui au Sénat. Les ambitions de Paul Sexas, qui a seulement 19 ans, s'engagera cet été sur les routes du Tour de France. Il sera au départ de Barcelone le 4 juillet prochain. Annonce faite hier. Première participation pour le jeune prodige du cyclisme français qui a décidé de franchir le pas, Maria Azé, et ce n'est pas pour faire du tourisme.
Pas d'objectif clair, mais Paul Sexas a déjà déclaré qu'il ne prenait pas le départ du Tour de France uniquement pour le découvrir.
Il pourrait déjà viser un podium, ça c'est certain.
Jérôme Coppel, ancien coureur et consultant RMC Sport.
Quand Paul va sur une course, peu importe laquelle, il y va pour gagner. Maintenant, il y a énormément d'inconnus, il y a les 3 semaines, mais si on prend ses capacités purement physiques, eh ben, il y a Tadej Pogacar, il y a éventuellement Jonas Vingegaard.
En plus du podium, Paul Sexas pourrait aussi remporter plusieurs étapes pour Jérôme Pinot, consultant cyclisme RMC Sport.
Avec la forme qu'il a, le départ à Barcelone, des étapes un peu difficiles, mais pas trop dès le départ, ça peut lui sourire, il peut tout espérer.
Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, se réjouit déjà d'un duel entre le quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, et le Français.
C'est sûr que c'est un élément d'attraction formidable. La légende du Tour de France s'est construite avec les champions génération après génération. Donc il va s'inscrire dans cette légende-là et je lui souhaite évidemment le meilleur, mais je pense qu'il peut nous offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Avec un contre-la-montre par équipe suivi d'étapes difficiles la première semaine du Tour de France, il n'est pas impossible de voir Paul Sexas porter le maillot jaune cet été, au moins pour quelques jours.
Et on espère qu'on suivra le Tour de France de Paul Sexas sur RMC, tout comme le foot ce soir. Première demi-finale, retour de Ligue des Champions, 21h. Arsenal, Atlético Madrid, un partout au match aller avant le choc tant attendu demain entre le Bayern Munich et le PSG. Le PSG qui partira avec un petit but d'avance.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h08. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et alors, vous avez une bonne nouvelle, Emmanuel. Enfin, je ne sais pas s'il faut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, la bonne nouvelle pour les actifs, c'est que nous avons fini de travailler pour financer les pensions des retraités.
Alors, vous connaissiez le jour de libération fiscale. Hein.
Oui.
C'est le 18 juillet. Le 18 juillet, on a fini de bosser pour l'État, on a payé tous nos impôts et à partir du 18 juillet, tout ce qu'on gagne, c'est pour nous. Eh bien, hier, 4 mai, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler le jour de libération. Allez, comment appeler ça ? Le jour de libération filiale. Nous avons fini hier de bosser pour financer la pension des 17 millions de retraités que compte la France. C'est ce qu'ont calculé deux économistes qu'on connaît hein, sur RMC, puisque vous les invitez souvent, vous les recevez souvent, Pauline, Maxime Sbahi, Erwan Tison. En fait, ils ont pris en compte toutes les cotisations sociales qui servent à financer les retraites pour un salarié qui gagne le salaire médian, c'est-à-dire 2200 euros. Et ils ont calculé que tout compris, y compris les dépenses de santé qu'on doit finalement honorer pour les retraités, tout ça représente 37% de notre salaire super brut.
37%
de notre super brut. Donc ça veut dire quoi ?
37% bah, de l'année.
37% de l'année. Et ça nous met quand ? Bah, ça nous met le 4 mai.
Alors, c'est quand même beaucoup plus que chez nos voisins.
Oui.
Eux, ça fait un petit bout de temps en plus qu'ils bossent pour eux.
Alors, c'est vrai que sur un temps de travail classique, ça représente quand même 85 jours de travail hein, consacrés à nos anciens. 4 mois. En 1970, c'était 2 mois. seulement, et on était libérés, entre guillemets, dès le 27 février. En Europe, on est les avant-derniers du peloton devant l'Italie, ce sera le 15 mai, mais les Irlandais, eux, sont libérés depuis le 2 mars, deux mois avant, idem pour les Allemands. L'écart avec l'Allemagne, c'est de 24 jours, ça veut dire qu'un actif allemand récupère 5 semaines de travail de plus qu'un Français. Alors certes, il faut toujours dire dans
le
les autres pays...
Le salaire de 5, voilà.
Voilà, dans les autres pays, c'est vrai que après vous cotisez moins globalement, mais après, individuellement, vous payez un peu plus. Mais c'est quand même très loin de compenser la différence. La France a fait le choix des seniors plutôt que des jeunes. Ça n'est pas moi qui le dis. C'est le gouverneur de la Banque de France que vous receviez hier matin.
François Villeroy de Gallo. Comme chaque matin, Emmanuel, les chiffres du jour, ça remonte.
Ouais, ça remonte, tout remonte. Le gazole, on est à 2,20€ par rapport aux 2,15€ de ce week-end. Mais attention! Attention au petit effet trompe-l'œil de Total, hein, puisque Total avait baissé les prix temporairement ce week-end et les a remontés hier. Le samplon 95, on a repris 6 centimes depuis deux semaines, 3 centimes depuis une semaine, on est à 2,02. Le pétrole brut, fort rebond, le pétrole brut n'aime pas le bruit des armes dans le Golfe Persique. $115 le baril contre 108 vendredi. Et puis petite tension sur le gaz aussi, à 48€ le mégawattheure, on était à 45 hier.
Merci Emmanuel, il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on va continuer à parler sous, puisqu'il y a ce surplus fiscal annoncé, précisé, je dirais, hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, 193 millions sur avril et sur mars qui vont être intégralement utilisés pour les aides sur le carburant. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Mickaël, vous nous appelez de Savoie, vous êtes gérant de société, je crois. Mickaël, comment vous réagissez à cette annonce? Vous saluez la transparence ou alors vous vous dites c'est bien normal?
Ben non, je suis scandalisé en fait.
Ah,
c'est
pourquoi?
Que je dis que en fait les 193 millions qu'ils ont aujourd'hui appartiennent aux Français.
Bah de fait, oui, c'est nous qui les avons payés.
Voilà. Et aujourd'hui, ces 93 millions, ils devraient être redistribués à tous les Français. Nous, aujourd'hui, avec ma compagne, on a 3 voitures.
Ouais.
On a 2 voitures pour la société, 1 voiture personnelle. À aujourd'hui, sur les 1,5 mois, quasiment 2 mois, ça nous a coûté un peu plus de 600 euros de plus par rapport à avant.
600 euros pour le couple?
Oui.
Ça fait beaucoup. Et vous ne pouviez pas vous en passer? Vous en avez vraiment besoin des 3?
Bah oui. On a la voiture pour les enfants, les amener à l'école.
Bien sûr.
Et après, les 2 voitures, c'est nos voitures de travail. Donc, nous, on a une société de nettoyage. Donc, on peut
bien
pas
sûr,
faire ça.
Faire la tournée.
On se déplace. On se lève le matin de bonne heure à 5h du matin pour aller travailler. On se lève, on va le soir très tard. On a besoin de nos voitures.
Et vous gagnez trop pour avoir les aides. Donc, en fait, les 193 millions qui vont être utilisés, effectivement, pour financer les aides annoncées par le gouvernement, vous, ces aides, vous n'en verrez pas la couleur. Hein.
Jamais. Jamais. Oui, effectivement, on gagne très bien notre vie, hein, y a pas de souci. Hein.
Non, mais tant mieux pour vous, hein, je veux dire, vous bossez. Hein.
Mais à aujourd'hui, je suis pas là pour enrichir l'État. L'État a mal géré leurs finances depuis des années. C'est pas aux Français et surtout à nous, petits entrepreneurs.
Les trois voitures, c'est des essences, des essences, des gasoils. Vous n'avez pas d'électrique?
Non, 3 diesel. Je ne passerai jamais à l'électrique. Jamais.
Vous ne passerez jamais écrit que vous avez entendu. On a quand même un certain nombre d'auditeurs qui disaient exactement comme vous et qui finalement, se sont laissés tenter. Souvent, ils disent qu'ils regrettent pas. Hein.
Ah oui, moi j'ai des amis à moi qui sont passés à l'électrique et aujourd'hui ils sont en train de pleurer.
Eh ben, dites-leur de nous appeler aussi au 3216, c'est important d'entendre tous les points de vue. Merci en tout cas d'avoir réagi, Mickaël, qui donc réagissait effectivement à ces 193 millions. Il dit qu'il faudrait les redistribuer à nous tous parce que finalement, vous comme votre épouse, vous avez contribué avec vos 600 euros de plus par mois à cette cagnotte en quelque sorte. Il est 8h14 sur RMC. Notez la suite dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange. Notez aussi qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient. Il parlera évidemment de cette reprise des combats, en tout cas fragiles, cessez-le-feu ce matin. Pourquoi l'Iran d'ailleurs a frappé notamment les infrastructures aux Émirats Arabes Unis? Que cherche l'Iran? On va essayer de tout comprendre à 8h30. Et puis, juste après Gilles Kepel, ce sera face à Canteloup pour notre plus grand bonheur. Tous les jours à 8h50, Nicolas Canteloup, c'est sur RMC. Il est 8h14.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche a pris quelques jours, mais on vous en a gardé le meilleur. Arnaud qui revient ce matin sur cette histoire complètement loufoque aux États-Unis.
Apolline, on se plaint souvent de nos politiques, mais ça va encore, je trouve, parce qu'aux États-Unis, le chef de l'Agence fédérale de gestion des urgences, en gros, c'est les super-pompiers américains, il a sorti une pépite cette semaine. Le gars affirme avoir été victime de téléportation involontaire.
Mais non.
Oui. Le chef des méga-pompiers américains, pas n'importe qui. Téléportation involontaire, et pas n'importe où. Il dit avoir été téléporté à son insu dans un magasin de gaufres.
Mais qu'est-ce c'est vrai. Délire.
Non, mais c'est vrai. Ah Manu Le Chypre me disait moi, ça m'arrive tout le temps.
C'est pas involontaire.
Hier, j'étais à la salle de sport, à rêvasser à la salle adverse qui m'attendait, et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé chez un marchand de gaufres. J'avais une double liégeoise tiède, chocolat noir suppléant chantilly, amande grillée dans la main.
Bah oui.
J'ai rien pu faire.
Bah bien sûr.
Non, mais ça peut faire jurisprudence, cette histoire de téléportation involontaire. C'est les cambrioleurs.
En fait, j'ai été téléporté dans la salle des coffres, je sais pas comment c'est arrivé.
Jack Lang. Mais enfin, mais qu'est-ce que je fais dans ce jacuzzi plein de mousse avec ces jeunes et faibles et Woody Allen? Écoutez, ça se plaît.
Ça se plaît. Le porte-avions Charles de Gaulle a été localisé donc en temps réel grâce au profil Strava d'un officier de la marine qui faisait son jogging sur le pont.
Oui, Strava, tout le monde connaît.
Ça y est, on l'a.
Pour... Bon, moi, je suis connecté d'ailleurs au Strava d'Emmanuel Le Chypre. Je peux suivre son parcours en temps réel. Hier, alors, j'ai vu, il a fait BFM Business Cantine, Cantine BFM TV, BFM TV Cantine, Cantine l'autre Cantine, parce qu'on en a deux ici, Cantine BFM Business, Business BFM TV, oui. Cantine.
Eh ben ça fait bien 10 000 pas tout ça.
Ah oui.
Mais d'où,
n'est-ce pas, d'où et 10 000 calories aussi.
En tout cas, ça m'a surpris que ce soit un scandale. C'est à cause de ça qu'ils ont localisé un porte-avions. Ouais. Je ne savais même pas que c'était censé être discret, un porte-avions. Moi, je pensais que c'était là pour impressionner, que ça se voyait depuis la Lune.
Ouais.
En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un coureur Strava dans l'avion de la Malaysia Airlines. On serait moins emmerdé.
Oui.
Ceci dit, il a dû être content, le gars. Parce qu'il fait du sport, c'est pour le montrer. Puis d'un seul coup, il s'aperçoit que sur son appli, c'est l'emballement. Tout Internet le regarde. Oh, c'est ouf! Putain, les gars, il y a Vladimir Poutine, il a commencé à me suivre. Quoi. C'est un président, il suit mes perfs. J'ai un like de Xi Jinping. Putain, je dois courir vraiment super bien. Et alors là, il a commencé à faire des vidéos. Salut la commu. Alors, merci d'être là, les fololos. Vous êtes nombreux à me suivre du monde entier. Je vois, il y a des gens en Iran, en Syrie, au Liban, en Amérique. Merci de votre soutien. Alors aujourd'hui, je vais tenter une petite course, un petit défi. Ça va être difficile à cause du vent parce que vous voyez, je suis à quoi? Au large de Ispahan, à 4-5 km, juste avant le détroit d'Hormuz. Ah merde, on a été repéré.
Patrick Bruel, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.
Dont Nicolas Hulot, l'abbé Pierre, Patrick Bruel, le classement des Français préférés des Français. On va quand même le regarder différemment. C'est pas le JDD qui devrait publier ça, c'est le nouveau détective.
C'est ça.
J'espère que Jean-Jacques Goldman ne va pas tomber. Par contre, Thomas Pesquet, ça me déplairait pas.
Ah
je
oui.
prends.
Ah ouais, oui,
non,
vous
mais
prenez.
C'est pas contre lui, mais il est tellement parfait, ce gars-là. Ouais. C'est insupportable, lui. On va bien trouver une martienne à qui il a tripoté les trois seins qu'elle a dans le dos. Il va nous dire, c'était juste un slow, parce qu'il a réponse à tout, en plus. Il est intelligent.
C'est dingue.
En tout cas, on n'écoutera plus jamais les chansons de Patrick Bruel comme avant. Alors, regarde un peu. Oh non, monsieur, on va pas regarder ça. Remettez votre pantalon. Rendez-vous, place des grands hommes. Non.
Oh non.
En tout cas, vous voyez, c'est encore une star des années 90 qui vient de nous quitter. C'est le décès. Adieu, Patrick. Funeste destinée. Monde cruel. Iras-tu jusqu'à nous prendre Ménélic, Willy Denzel, Alliance ethnique, Nadia ou Alain Duhamel? Non.
Arnaud Demange, pour notre plus grand bonheur. Il est 8h21 et c'est le moment de vous gâter et de s'occuper de vos vacances. Qui a gagné la semaine de vacances, bel embras? C'est vous, Franck. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, Apolline. Merci. Super,
félicitations,
génial.
Franck. Merci. Vous faites quoi? Vous vivez où?
Je suis en retraite. J'habite en Haute-Saône, un petit village qui s'appelle Cé-sur-Saône, en bord de Saône.
Ça fait déjà rêver.
Retraite,
moi, je veux bien déjà venir à Cé-sur-Saône.
Ouais, c'est super. Un joli village.
Un joli village qu'on salue, mais vous allez effectivement pouvoir aller vous promener en France, puisque, je le rappelle, on vous offre donc ce séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra. Vous avez déjà une idée de l'endroit où vous voudriez aller?
Ouais, je pense la Corse.
Ah, la Corse.
Ouais,
très bon choix.
On adore.
On adore. Quand vous dites « on », c'est que vous savez déjà avec qui vous voulez partir ?
Ben oui, déjà avec mon épouse et puis peut-être mes petits-enfants.
Ah voilà. Mais trop sympa. Eh ben écoutez, on voilà. vous embrasse très fort. Elle s'appelle comment, madame?
Carmen.
Eh ben on embrasse Carmen et vous aussi, Franck. Belles vacances okay. à vous. On est très heureux de vous avoir gâté ce matin, puisque ça y est, donc vous avez gagné ce séjour Bel Embras. Toute la semaine, on vous offre vos vacances sur RMC. Il est 8h22.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embras. Bel Embras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Faut-il craindre une reprise des combats au Moyen-Orient? C'est à nouveau l'escalade. L'Iran a frappé hier des infrastructures aux Émirats Arabes Unis. Mon invité dans un instant, dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend l'initiative, le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis vont-ils riposter? Toutes les réponses dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadedine.
La hausse des prix des carburants profite-t-elle à l'État? Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les augmentations à la pompe ont engendré 190 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier, annonce du Premier ministre hier soir. Mais Sébastien Lecornu promet transparence et redistribution totale. Cette somme financera intégralement les 380 millions d'euros d'aide déjà annoncés. Un navire appartenant à un géant danois du transport de marchandises a pu passer le détroit d'Ormuz escorté par la marine américaine. On l'apprend smart ce matin au deuxième jour de l'opération déblocage annoncée par le président des États-Unis Donald Trump. 5 Français sont bloqués à bord du bateau de croisière touché par l'antivirus. Au total, 149 passagers ont été placés en quarantaine de force, empêchés de débarquer au Cap-Vert. 3 personnes atteintes du syndrome respiratoire aigu sont mortes. 2 autres sont touchées, gravement malades. Le croisiériste recherche un port où accoster au plus vite. Le football, demi-finale retour de la Ligue des Champions, Arsenal-Atlético Madrid ce soir. Et demain, 21h, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne sur la pelouse du Bayern Munich, là où les footballeurs parisiens ont soulevé leur première Ligue des Champions l'an dernier. La météo, beaucoup de pluie aujourd'hui, en particulier sur la Sarthe et la Mayenne, deux départements en vigilance orange pour forte pluie, risque d'inondation. On attend d'ici ce soir l'équivalent de 3 à 4 semaines de pluie. Globalement, il va beaucoup pleuvoir hein, entre la Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Île-de-France, Massif Central, Bourgogne, Ardennes. Ailleurs, des averses orageuses, retour d'un temps plus calme sur le Languedoc. Le tout avec des températures en baisse cet après-midi, souvent de 2 à 4 degrés sous les normales de saison.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Rachel Sadedine. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis qui s'apprêteraient à riposter? Toutes les informations et les réponses donc sur RMC et BFM TV dans un instant avec mon invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'était aux éditions Plomb. Est-ce qu'on peut encore parler ce matin de cessez-le-feu? La situation est très tendue. Qui des États-Unis ou de l'Iran a l'avantage? On va essayer de comprendre tout ça avec vous. Mais d'abord, cette question, lorsque l'on a vu hier des bombardements, notamment des tentatives sur les Émirats Arabes Unis venant de l'Iran, la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi l'Iran? Pourquoi l'Iran reprendrait l'initiative éventuelle d'une cessation du cessez-le-feu et d'une reprise des hostilités?
En fait, ils sont dans une situation de ni guerre ni paix. Et il n'y a pas franchement de reprise des hostilités, mais il y a des pressions militaires, et celle que vous venez d'évoquer est très significative, puisque c'est sur Fujairah, c'est-à-dire le terminal pétrolier des Émirats Arabes Unis qui donne sur la mer d'Arabie, ou mer d'Oman, c'est-à-dire au-delà du détroit d'Ormuz, juste après que les Émirats se sont retirés de l'OPEP, au moment où il est devenu public que le dôme de fer israélien avait été déployé sur leur territoire, dans le cadre des accords d'Abraham. Et donc, les Iraniens ont voulu montrer que sur cette affaire, ils étaient vigilants et qu'ils allaient taper ce point-là. C'était aussi une manière d'accroître les contradictions à l'intérieur des pays arabes du Golfe, puisque d'un côté...
Enfoncer un coin, voilà. Les Émirats arabes unis d'un côté,
l'Arabie saoudite de l'autre, etc. Les Émirats se sont maintenant rapprochés du Bahreïn, ils ont racheté la dette du Bahreïn que les Saoudiens avaient laissé un peu tomber. Les Saoudiens se rapprochent, eux, du Qatar, ce qui était tout à fait contre nature autrefois. Et quant à l'Oman, il a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien longuement la semaine dernière. L'Oman n'est pas allé au sommet du GCC, du Conseil de coopération du Golfe à Jeddah. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'éparpillement dans le Golfe, dont évidemment Téhéran tire tous les bénéfices.
C'est extrêmement intéressant, on a l'impression avec vous que le puzzle se redessine en quelque sorte en ce moment, au-delà de la seule question de l'affrontement entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Cette histoire quand même des Émirats Arabes Unis. Vous avez mentionné le dôme de fer israélien qui aurait été, semble-t-il, ça n'a pas tout à fait été confirmé, utilisé pour protéger les Émirats Arabes Unis, pour intercepter certains missiles iraniens.
Oui, en tout cas au moins sur Abu Dhabi, parce que les Émirats sont assez étendus. Vous avez deux parties, vous avez la zone Abu Dhabi-Dubaï, et puis vous avez l'Émirat de Fujairah, qui lui traverse la péninsule du détroit d'Ormuz, si vous voulez. Au nord, vous avez un morceau de l'Oman, je sais pas, qui s'appelle Mosandam. Au sud, l'Oman avec Mascate, et vous avez ce corridor qui permet aux Émirats d'avoir une fenêtre sur la mer d'Arabie, ce qui lui permet, tu lui permettais en tout cas d'exporter jusqu'à aujourd'hui 3,5 millions un peu moins de barils de pétrole par jour, ce qui lui assurait d'une certaine façon sa capacité de fonctionnement, et surtout s'il sortait de l'OPEP, pouvait l'augmenter. Donc ce sont des frappes qui sont menées par l'Iran de manière à faire dérailler un processus ici, en encourageant, il ne tape pas sur l'Arabie Saoudite par exemple, parce qu'ils veulent l'encourager à trouver des accommodements, et donc briser la stratégie américaine de soutien à l'ensemble des pays du Golfe.
Et évidemment, on va se poser la question dans un instant de savoir si ce détroit d'Ormuz peut être libéré et s'il y aura des répercussions, des réponses et une reprise franche et massive des hostilités. Mais avec cette idée d'avoir été ciblé les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'au fond c'est une manière pour l'Iran d'entraîner les pays du Golfe dans cette guerre, et est-ce qu'au fond ils vont vraiment y aller? Est-ce qu'il pourrait y avoir des répliques?
Non, je crois qu'ils ont ciblé les Émirats parce qu'ils ont vu qu'il y avait aujourd'hui une rupture, un certain niveau de rupture entre les Émirats et les autres. Ils n'ont pas ciblé les autres, ils ont fait ça exprès pour attiser les contradictions.
Et on précise que deux personnes ont été blessées après qu'un immeuble résidentiel à Oman aussi a été visé par une attaque. Ça paraît plus surprenant.
Oui, alors ils ont déclaré dans le passé, du genre les Iraniens, que des attaques sur Oman n'avaient pas été de leur fait, qu'ils les avaient démentis. Ils ont peut-être eu lieu, mais ils sont souvent attentifs justement à ménager le sultanat d'Oman, parce que dans leur esprit, si péage il y a, ce dont ne veut pas la communauté internationale évidemment,
ce sera forcément entre les deux.
Voilà, l'idée c'est
Oman d'un côté, côtes iraniennes de l'autre.
Négocier avec les Irans un partage, pour les Omanais ça va être compliqué, mais en tout cas ça fait partie des fers qu'ils conservent au feu.
Gilles Kepel, les frappes sur les Émirats Arabes Unis n'ont pas non plus été tout à fait revendiquées par l'Iran. À quoi joue l'Iran, y compris en termes d'opinion publique ou de communication?
Mais c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une situation de ni guerre ni paix.
Et on n'assume pas.
Non,
mais on
montre qu'on est capable de faire dérailler les processus, et c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sayed Abbas Araghchi, en disant mais les Américains sont fous de vouloir passer en force. La seule chose qui est faisable, ce sont les négociations. Et quand il dit ça, il reprend, ou il fait semblant de reprendre, ce que disent les Européens. Le président Macron, le chancelier Merz ont également dit
il faut reprendre les négociations.
Une manière négociée de sortir de la crise du détroit d'Ormuz. Oui. Donc vous avez une espèce d'habileté iranienne. Hein. Ce sont des gens qui sont rompus à la diplomatie depuis des années. Et face à cela, vous avez des promoteurs immobiliers, sans rien contre cette profession par ailleurs, qui veulent faire des deals immédiatement. Et on voit
donc
bien.
Donc on veut des deals d'un côté, on veut une sorte de diplomatie madrée de l'autre.
De l'échiquier, si vous voulez, oui.
Est-ce que les négociations, c'est encore possible?
Alors, c'est possible plus ou moins, c'est-à-dire que il y a toujours des propositions qui circulent à travers le Pakistan d'un côté et de l'autre. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le suivant, les Américains voudraient qu'il y ait une négociation qui ne porte que sur la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et vous savez qu'il y a toujours 900 bateaux qui sont coincés, avec à peu près 20 000 marins, d'après les chiffres, dont on apprend aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile, il n'y a plus de nourriture, ils sont là depuis maintenant plus de deux mois, la situation n'est pas du tout simple, il y a une espèce de promiscuité, etc. Donc pour les armateurs, ça pose toutes sortes de problèmes, les assureurs, etc. Il y a cette dimension-là. Donc les messages passent. Et mais l'Iran veut dire non, on veut négocier, mais on s'arrête là. Alors que les Américains disent on empêche ça et il y a derrière le nucléaire.
Mais qui bluffe ? Il y a quand même cette question fondamentale du passage ou non les deux, du passage ou non de bateaux américains. Du côté des États-Unis, on dit il y en a quelques-uns qui sont passés. Du côté de l'Iran, on dit c'est n'importe quoi. Quelle est la réalité et est-ce que tout cela peut s'embraser dans les heures qui viennent ?
Alors, s'embraser, je ne crois pas que ni l'un comme l'autre y ait intérêt immédiatement. Puisque l'Iran a cette espèce de stratégie de harcèlement avec comme objectif que les sondages de Donald Trump dans la perspective des midterms soient de plus en plus mauvais et de le pousser à la faute. Puisque, en fait, il y a une échéance fixe du côté américain, ce sont les élections de la mi-novembre et les contradictions dans lesquelles est pris le président des États-Unis. De l'autre côté, pour l'Iran, il n'y a pas d'échéance fixe. Les Pasdaran veulent essayer de tenir le plus longtemps possible, mais en tenant, ils continuent à faire que l'économie se dégrade, la société n'en peut plus, etc.
Donc il y a quand même, en réalité, deux temporalités. Il y a une temporalité politique et financière, malgré tout, aussi du côté américain, puisque la question du coût de la guerre commence à être une question récurrente dans l'opinion publique américaine. Mais de l'autre côté, côté iranien, à la fois, on a le temps pour soi parce qu'ils sont dans une logique d'un régime qui tient et qui est jusqu'au boutiste, mais avec une économie qui, aujourd'hui, est quand même nettement fragilisée. On parlait de la question du stockage de leur pétrole. Est-ce que ça reste une échéance qu'ils ont en tête ?
Alors, sur les Américains, déjà, il y a ça, vous l'avez évoqué. Il y a aussi, par exemple, l'augmentation du nombre de faillites des agriculteurs américains, parce que les prix du carburant sont envolés et il n'y a pas eu d'économie d'énergie aux États-Unis parce que c'est un pays producteur. Mais
les engrais, on parle beaucoup aussi de la question des engrais,
donc,
de la saison des
travaux. Ce sont les grosses masses électorales du Parti républicain. Vous voyez, ça, c'est un vrai problème pour
Donald Trump.
Pour Donald Trump. Alors, du côté du contre-blocus, c'est-à-dire, on s'était dit, quand il y a eu l'initiative, il y a une dizaine de jours, des Américains de bloquer en mer d'Oman ou en mer d'Arabie, comme on l'appelle, la sortie et l'entrée vers le Golfe, ou à partir du Golfe, le navire qui allait en Iran, qui sortait avec du pétrole iranien, on s'est dit à ce moment-là, un peu vite, c'est fini, le stockage va être saturé, il va falloir que l'Iran ferme ses puits, ils seront difficiles à remettre en marche, les Chinois ont déjà payé, etc. Ils sont aux abois, ils vont lâcher. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de navires iraniens ou avec d'autres pavillons, mais avec du pétrole iranien, qui sont aujourd'hui en mer de Chine, qui sont sur les eaux, qui ne donneront, parce qu'il faut deux mois à peu près de navigation pour aller en Chine, qui ne délivreront leur pétrole un peu plus tard.
Donc ils ont en réalité quand même des réserves d'argent à venir.
En gros, l'Iran a de quoi tenir aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin de l'été.
Donc quand on parlait des 20 jours de stockage avant que les sites de stockage ne soient saturés, c'était, et que donc qu'ils soient obligés éventuellement de fermer le robinet des puits de pétrole, en réalité, ils ont davantage de temps devant eux.
Semble-t-il, oui. Et ça, c'est ce calcul qui avait été fait de manière un peu erronée, probablement, qui, du coup, rend plus difficile la stratégie de pression maximale.
Est-ce que ça veut dire, Gilles Kepel, que vous diriez ce matin que c'est l'Iran qui a l'avantage ?
Alors, c'était les États-Unis qui avaient l'avantage indéniablement quand il y a eu le contre-blocus. Aujourd'hui, l'Iran a effectivement marqué sa capacité à résister. Parce que dans l'affaire aussi, outre la temporalité que vous avez mentionnée, pour l'Iran, il suffit de ne pas perdre pour avoir gagné, d'une certaine manière, dans cette affaire. Alors que les États-Unis ont besoin de gagner pour gagner. C'est pas la même chose. Et vous voyez des soutiens dans une partie du monde, du Sud global, qui finalement considère que l'Iran a résisté à l'impérialisme américain.
Contre le grand
américain.
Méchant voilà, impérialiste ça, américain. Voilà.
Donc tout ça est en train de changer et ça n'est pas sans évoquer du reste ce qui s'était passé après le 7 octobre 2023 où tout le monde avait trouvé que c'était affreux ce qui s'était passé à Gaza, le massacre des en Israël plutôt, l'enlèvement des otages, le massacre
du 7 octobre,
etc.
Ensuite, ça s'est
inversé en soutien à ceux qui avaient
Vous estimez qu'au fond, presque du point de vue désormais politique ou de communication, le fait même que l'Iran tienne, c'est en soi une forme de victoire, au moins temporaire.
C'est un succès temporaire. Ce pourquoi vous avez, je vous dis, on l'a dit tout à l'heure, Araghchi qui reprend quasiment délibérément des éléments de langage qui sont ceux des Européens en disant il faut une solution négociée sur le détroit d'Ormuz et puis le nucléaire on verra plus tard.
Mais c'est etc. presque ironique.
Oui, bien sûr, mais
c'est au moins cynique.
Ils font oui, bien tout à fait cynique, ils font feu de tout bois bien sûr.
Gilles Kepel, hier l'agence de presse Reuters avait certaines informations qui lui laissaient croire que l'Iran n'aurait besoin, je cite, que de 9 à 12 mois pour obtenir l'arme nucléaire. Comment est-ce que c'est possible, ça, alors qu'il y a eu la guerre des 12 jours avec les bombardements, alors qu'il y a eu ces 66 jours donc de guerre depuis le déclenchement?
Oui, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il en est.
C'est une forme presque... L'Iran n'a pas forcément intérêt à revendiquer cette capacité si rapide?
Oui, dans une certaine mesure, pour pouvoir apparaître comme une puissance de paix, si je voulais, auprès de ses soutiens. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force du régime et sa capacité. Nous aurons la capacité d'utiliser le nucléaire. Et nous n'avons pas peur des États-Unis dans un monde qui est complètement délabré, où les alliances sont en train de se briser. Tout ça se fait dans un contexte où l'OTAN est en train de cesser d'exister, si vous voulez.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, dans cette espèce de moment où vous le dites, on n'est plus vraiment en guerre, mais on n'est pas non plus du tout en paix?
C'est-à-dire que c'est pas seulement, d'une certaine manière, ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui est un révélateur aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Regardez l'autre front, le front israélo-libanais, est aujourd'hui dans une situation absolument catastrophique. Donald Trump souhaitait que le président libanais Joseph Aoun et Bibi Netanyahou se serrent la main à la Maison-Blanche et fassent la paix. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Que le président libanais aille serrer la main au Premier ministre israélien, avec l'armée israélienne qui est toujours présente dans la zone
sud du Liban.
Et qui, jour après jour, envoie des bulldozers raser les habitations des villages chiites et des villages chrétiens.
Ça veut dire qu'Israël est en train de détruire sa propre capacité à pouvoir négocier, alors qu'il y avait une sorte de début d'espoir, de dialogue au minimum avec le voisin libanais.
Bien sûr, l'argument d'Israël, c'est qu'il y a toujours les roquettes du Hezbollah qui arrivent. Et là aussi, ce qui est très frappant, vous voyez, le développement des armes. Le Hezbollah dispose maintenant de mini-drones à fibre optique qui ont fait des ravages parmi les soldats israéliens, qui ont fait tomber un hélicoptère, etc. Et donc, il y a cette dimension-là qui est aussi tout à fait
stupéfiante. Mais ça, pardon, c'est assez inouï. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que jour après jour, au fond, ce que l'on imaginait être des capacités détruites du côté de l'Iran, ou au minimum affaiblies du côté de l'Iran, du côté du Hezbollah, on a l'impression que quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Oui, ça, le Hezbollah, c'est quand même quelque chose de fait stupéfiant, parce que en septembre 2024, il y a eu la fameuse affaire des beepers piégés, vous vous souvenez?
Mais ça veut dire que le Liban a été complètement poreux, oui, en quelque sorte, à une forme d'entrisme, mais y compris matériel,
oui, par les gardiens de la révolution, qui ont reconstitué complètement le Hezbollah. Alors, est-ce que c'est arrivé par l'aéroport qui est en zone chiite, par la mer, ou aussi par des tunnels venant par la Syrie d'Ahmad al-Sharaa, pourtant très opposé à l'Iran, mais il faut bien faire des affaires, et la Syrie est aussi en train de réexporter du captagon vers le Golfe aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'argent.
Au moment où l'on se parle, le président du Parlement iranien, à l'instant, dit, je cite, que l'Iran n'a même pas commencé son bras de fer avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. On est encore dans la relation, le bras de fer, la relation, le rapport de force, et cette revendication que
on en a encore sous le pied, c'est ce que nous disait Zérania.
Oui, c'est ça, en évitant de mettre ses forces en action. Parce que là, il va falloir, il y aura un test de vérité. Pour l'instant...
On n'y est pas encore à ce test de vérité.
Non, je pense que... vous pensez toujours qu'il y a les Pakistanais continuent à faire passer des messages d'un côté et de l'autre. Et l'objectif des Iraniens, c'est de faire en sorte qu'à un moment, Trump, voyant qu'il n'arrive pas, en dépit des destroyers qui ont été envoyés, etc., à une solution significative d'ouverture, accepte de faire une négociation sur le détroit et disent, dans un deuxième temps, on verra ce qu'il en est du nucléaire. Et à partir de ce moment-là, l'Iran aura acquis un avantage. Mais les États-Unis ne veulent pas lui laisser cet avantage, parce que sinon, c'est toute la réputation de Trump qui s'effondre. Et vu l'état des sondages aujourd'hui, vu l'état... Alors, c'est très bien, l'économie américaine est très contestée. La bourse n'a jamais été aussi haute, grâce aux valeurs technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps, le prix du pétrole n'a jamais été aussi élevé. Et donc, on est dans un contraste qui est pas terrible pour les électeurs.
Une dernière question, Gilles Kepel, la Chine, dans cette histoire, est-ce qu'elle a une réelle influence? Comment est-ce qu'elle tire son épingle du jeu? On a quand même l'impression qu'elle regarde tout ça avec beaucoup d'attention.
Oui, alors eux, ils ont vraiment des stocks de pétrole très importants. Ils soutiennent l'Iran en le finançant essentiellement, mais en même temps, l'empire manufacturier chinois a besoin d'avoir une assurance régulière d'approvisionnement énergétique. Donc là, il y a un grand point d'interrogation pour eux. D'autre part, eux voient dans la baisse du nombre de missiles américains quelque chose qui est très bien, puisqu'il y en aura moins qui iront défendre Taïwan. Mais je ne pense pas que la Chine soit prête aujourd'hui à un affrontement avec les États-Unis. Elle attend son heure. Et évidemment, l'affaiblissement américain qui apparaîtrait jour après jour ferait ses affaires. Un autre enjeu, c'est la Russie. La Russie qui aurait dû être enrichie par la hausse du pétrole. En fait, ça n'est pas si clair que ça, puisque depuis qu'il y a plus d'investissements étrangers en Russie, le système d'exploitation pétrolière s'est beaucoup affaibli. Ils sont très au-dessous de leur quota de l'OPEP. Et surtout, ça qui est très étonnant, c'est l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine qui avait été attaquée par des drones iraniens en grande quantité vendus par l'Iran à la Russie a réussi à construire des espèces de machines anti-drones Shahid qui valent trois fois rien et qui sont en train de vendre aujourd'hui, très cher je suppose, mais beaucoup moins cher que les Patriotes, aux Émiratis, aux Saoudiens.
Et c'est effectivement assez inouï de voir d'un front à l'autre.
Donc on voit comment tous ces conflits divers d'une certaine manière s'imbriquent dans un système où les alliés sont en train de se dissoudre et où Trump crache sur l'OTAN tous les jours.
On reconstitue effectivement le puzzle. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV.
Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, était mon invité dans le face-à-face ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Et Emmanuel Macron, tiens, souhaitait réagir. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous et toutes, à celles et ceux et celles, les Gilles Kepos et les Gilles Kepel. C'est dingue, j'ai appris plus de choses sur la guerre au Moyen-Orient en entendant Gilles Kepel qu'en assistant au Conseil des ministres. Cher Gilles, est-ce que vous accepteriez de prendre en stage de troisième Jean-Noël Barrot, mon ministre des Affaires étrangères? Je pense qu'en une semaine avec vous, il peut acquérir deux, trois notions utiles sur les subtilités du monde arabe. Alors bien sûr, ça va sans dire, ce sera un stage gratuit, oui. Vous connaissez les finances de l'État.
Ah, bien sûr.
Mais en échange, je peux vous offrir une croisière all inclusive au large de Chypre, sur le Charles de Gaulle, ou peut-être je peux même m'arranger pour vous laisser conduire un char d'assaut sur les Champs-Élysées le 14 juillet.
C'est pas mal ça.
Ça, c'est pas mal.
Merci Monsieur le Président. Gilles Kepel est justement resté avec nous, je le disais. Vous pouvez nous résumer la situation, s'il vous plaît, Monsieur Kepel?
Oui, effectivement, la situation est en train de se complexifier très nettement pour tous les tenants et aboutissants du conflit. Ça devient très compliqué pour le président américain Donald Trump. Oui, je parle un anglais parfait, en plus avec l'accent du Wyoming. Car il y aura bien sûr les élections de mi-mandat en novembre, les
fameuses midterms. Mais je peux mettre une pointe d'accent du Kentucky aussi. Le président américain s'était, vous le savez, engagé à ne pas envoyer de GIs. Je suis facile aussi sur le Nevada.
C'était Nevada. Oui.
Hors des frontières, hors sa base, MAGA attend qu'il tienne ses engagements MAGA pour Make America Green. Oui, je peux aussi prendre l'accent du Delaware et du Connecticut.
Bon, très bien. Gilles Kepel, les Français sont intéressés du prix inquiets du prix de l'essence, notamment pour leurs vacances.
Oui, les vacances, effectivement, oui, voilà. Les holidays, comme on dit dans l'Arkansas. Les États-Unis et l'Iran bloquent en Hormuz, vous le savez. Du coup, le canal de Panama redevient prioritaire, surtout après que les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP et que la Russie ne négocie plus avec l'Ukraine, vous le savez, ce qui fait bien sûr les affaires du Venezuela, d'autant plus que l'Union européenne patine, il faut le bien dire, face à un Donald Trump tenace et aux pays du Mercosur qui, pour leur part, viennent de conclure un accord de libre-échange avec le califat de Norvège, d'obédience wahhabite et la République islamique de Nouvelle-Zélande qui, comme chacun sait, vous n'êtes pas sans l'ignorer, chère Apolline de Malherbe, sert de base arrière à de nombreux outils yéménites. Vous l'avez compris, si les Français ne peuvent plus se payer de billets d'avion, juste en m'écoutant, ils pourront toujours voyager.
Oui, c'est bien ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel, tiens, pour les titres de l'actualité.
Ouais, salut à Pont. Dis donc, c'est bien d'inviter un expert du monde arabe, mais ce serait encore mieux s'il pouvait parler français. Il parlait français. C'est sûr. Non, parce que j'ai tellement rien compris sur le Moyen-Orient que j'ai cru qu'il parlait une langue de là-bas. Allez, c'est parti pour les titres. Musique. 2 millions de personnes ont assisté au concert gratuit de Shakira sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Nul. Non, mais elle est nulle. Nulle, la Colombienne. Céline Dion, elle a eu 9 millions de demandes payantes pour un concert dans une salle à Nanterre. Je peux dire que là-bas, il n'y a pas besoin de plage. Cocotier. Céline, tu lui montes une scène avec 2 palettes sur la plage de Dunkerque. Elle chante devant 2 millions de personnes avec des billets à 3 000 euros. Nul, Shakira, nul. Oh. Et puis après Thomas Soto, triste nouvelle, on l'a su, et sa chute en vélo, c'est au tour de Bruce Toussaint, autre matinalier, cher collègue, de devoir céder sa place à l'antenne après une mauvaise chute. C'est donc le 4e présentateur de matinale victime d'une chute cette saison.
Non, ça fait 2.
Mais si, ça fait 4. Dominic Tenza, Perrine Storm, ils sont bien tombés aussi. Elle chute d'audience.
Puis pour faire un point sur la situation dans le détroit d'Hormuz, le consultant militaire de BFM, le général Pellistrandi, est avec nous. Général ? Général ? Il est où ? Général ? Ah, il est là ! Il sort de sous la table. Général, vous êtes avec votre casque ?
Mirabelle a fait les glantines. Mirabelle a fait les glantines. Mirabelle a fait les glantines.
Général Pellistrandi ?
Non, mais oui, c'est pas les glantines, c'est Pauline.
Non,
c'est
oui.
Pauline. Alors, oui, j'essaie de retrouver mes hommes de la 7e compagnie. Tassin, Pithiviers et Twitek.
Ah oui.
Et on a aussi intégré une fille, parce qu'à BFM, on est une armée moderne, on a Elsa Vidal.
Ah oui.
Je suis amoureux d'Elsa Vidal, la fille aux cheveux gris. Les cheveux gris, parce que c'est un super camouflage, les cheveux gris, parce que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, parce que moi, je suis resté très proche du terrain. Hein, même si le terrain, il y a longtemps qu'il ne m'a pas vu.
Hein,
voilà. Oui, moi, la dernière guerre que j'ai faite, c'était le Tchad en 78.
Ah oui.
Hein, oui. Mais maintenant, ça a évolué, la guerre. Maintenant, c'est Tchad GPT.
Ah oui.
Je ne sais pas où c'est sur la carte, mais Tchad GPT.
Oui. On est à l'antenne générale.
Oui, pardon.
Oui.
À vos ordres. Ah non, c'est moi le général. Pardon.
Oui, c'est vous. Alors, général. Bon, c'est peut-être la fatigue. On a vu que vous travaillez beaucoup quand même.
Oui, c'est le problème. Je travaille beaucoup. C'est le problème, c'est que c'est une chaîne info en continu.
C'est
tous les jours, c'est 9 jours sur 7. J'ai même pas pu faire le pont du 1er mai. Je sais pas qui est le con qui a fait sauter le pont. Pourtant, j'avais bien dit le fil rouge sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton gris. Mais...
Vous vous faites jamais remplacer, général ?
Non, parce que vous savez ce qui se dit à la rédaction. Je suis irremplaçable. Oui, alors ils essayent de faire tourner les effectifs des généraux, mais les autres, ils sont pas au niveau.
Moi,
du coup, on se relaye à tour de rôle, mais c'est quand même très souvent chacun mon tour. Il fait quand même un peu chaud dans votre studio. Oui. Je sais que c'est pas réglementaire, mais sur un théâtre d'opération, parce que c'est Riquet, mais je peux m'enlever mon cax.
Oui,
mon
vous cax. Pouvez vous enlever vos
cax. Alors,
Il faut l'image. Voilà. Regardez oui, sur les réseaux sociaux, je vous en prie.
Oui, c'est pour les réseaux sociaux. C'est pour les réseaux sociaux. C'est pour les réseaux sociaux.
Alors, allez-y, général, je vous écoute.
Oui, je me sens plus léger, vous voyez, plus à l'aise pour parler de la guerre des bateaux. Parce que ma force, c'est que je suis expert nulle part, mais je suis à l'aise partout.
Ah oui.
Et oui, si, les gens s'en rendent compte. En mer, je flotte. Dans les airs, bon, bah, je survole. Et sur terre, bon, bah, je m'enlise. Bon, allez, je vous laisse. À vos ordres, mon général.
Non, c'est vous le.
Oui, ah oui, c'est moi du général. J'oublie toujours.
Merci beaucoup Nicolas, et merci à Gilles Kepel d'être resté à...
Voilà, il se demande ce qu'il fout là.
Face à Canteloup, on retrouve donc tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous recevrons l'homme d'affaires qui veut régler ses comptes avec Dominique de Villepin, Robert Bourgi. On regardera aussi le calendrier pour les actifs. Depuis hier, ils arrêtent de financer la retraite pour leurs parents. Mais jusqu'au 18 juillet prochain, on continue de payer via la fiscalité. Ça vaut le coup encore de bosser. Allez, à tout de suite au 32-16.